Bien. Bien, nous allons reprendre donc cette conférence donc par l'intervention de Monsieur Larfouillou, donc de Harmonie Mutuelle, qui va nous parler de ces enjeux sociétaux, donc de cette santé connectée. À l'issue, donc on pourra aussi poser quelques questions. Je vous en prie.
Merci. Alors, si ça ne vous pas, si vous entendez bien, je ferai bien sans micro.
Non, c'est obligatoire.
Ah, c'est pour l'enregistrement. Merde.
Bon. Vous entendez.
Ben oui, je vais essayer de ne pas être troublé par le micro alors.
Bonjour à tous, donc je suis Julien Larfouillou, je travaille chez Harmonie Mutuelle dans une direction qui s'appelle la direction de la stratégie de l'offre et de l'innovation. Et je suis responsable de projet sur des projets e-santé. Et du coup, je suis plutôt content d'être là, puisque parmi les slides de conclusion tout à l'heure, on évoquait un peu qu'est-ce qui va se passer avec les données, les assureurs, les mutuelles, etc. Donc c'est peut-être aussi une bonne occasion pour le monde des mutuelles. Alors, je ne parlerai pas au nom des assureurs, pour lesquels c'est très différent, mais en tout cas au nom des mutuelles. Au nom des mutuelles, de parler sur des enjeux que sont les nôtres, davantage orientés sur les besoins, sur les enjeux de société et de santé, que sur des besoins très marketing, très marché. Bon, ben ça fonctionne. Alors, j'imagine, compte tenu de la thématique, que depuis, soit ce matin, soit depuis quelques jours, vous avez dû voir beaucoup de chiffres. Quand on parle d'objets connectés, c'est toujours miraculeux en termes de chiffres. 30 objets connectés par foyer en 2020 en France, 165 000 applications santé qui existent aujourd'hui sur les stores téléchargeables, 2 milliards d'objets connectés vendus en France d'ici 2020, voire plus de 20 milliards dans le monde d'ici 2020. Bon, c'est les seuls chiffres que j'essaierai de dire ici, parce que vous en avez eu beaucoup, et puis je trouve que ça résume le marché de l'objet connecté à un marché. Quand on parle de santé, ce n'est pas, il y a bien plus important que ça. Donc, si je parle de chiffres, vous avez le droit de me dire « hop, stop, c'est pas là le sujet », parce que c'est pas là que le discours est, à mon sens. Quand on parle de l'univers de la e-santé, de la santé connectée, de la santé mobile, j'ai volontairement réduit les petits préfixes ou suffixes qui accompagnent, parce que finalement, les termes qui sont communs, c'est « santé » à chaque fois. Et le côté technologie, en tout cas, c'est un peu notre vision, n'est qu'un moyen supplémentaire pour aider la santé des gens. Hop. Donc, l'objet de la présentation, quand on parle d'enjeux sociétaux, c'est évidemment d'identifier à quel mot, ou finalement quels sont les avantages de l'émergence de ces technologies. Donc j'aurai un discours volontairement lié à de l'opportunité pour la santé des gens, avec quand même, malgré tout, il faut quand même être vigilant sur certains aspects qu'on évoquera. Mais en tout cas, on porte un discours très optimiste sur l'amélioration de la santé des gens grâce à ces technologies, en ayant évidemment un peu de recul sur les dérives possibles. Alors je vais peut-être aller sur cette partie que j'avais préparée, mais elle n'est peut-être pas neutre aussi. C'est quoi la santé connectée? Finalement, quand on pose la question... on dit tous qu'on a un objet connecté chez soi ou plusieurs, souvent ça se réduit à la tablette ou l'iPhone, parfois un petit peu plus, mais globalement la santé connectée, c'est quoi? C'est important de définir le périmètre. Déjà, ce que ça n'est pas. À notre sens, ce ne sont déjà plus des gadgets. Cette phase-là, alors peut-être parce qu'on observe le marché d'une manière peut-être un petit peu plus... forte que d'autres, mais en tout cas cette vague que l'on peut considérer geek ou gadget doit a priori arriver à terme d'ici peu pour faire place à des choses un petit peu plus utiles. Donc là, notre ami qui est bardé de capteurs, si on le réduit à ça, effectivement on loupe des belles opportunités de soigner des gens. Quand j'évoque volontairement ces gadgets, j'en ai moi-même autour du poignet et on évoquera ensemble comment elles peuvent aider malgré tout dans la santé. Au-delà de ce volet un petit peu gadget, du coup, on voit qu'émergent petit à petit des outils très professionnels qui arrivent au sein du marché du grand public. C'est pas, on va dire que c'est une évolution naturelle. La santé était plutôt épargnée jusque-là, puisque très protégée par le système de santé, mais Si on élargit un petit peu le spectre, le bricolage, la cuisine, l'aménagement, le jardinage, bref, de nombreux produits de marques très professionnelles envahissent notre quotidien. On a des pianos pour faire la cuisine, on achète très cher nos poêles, on achète des marques pour le home cinéma, on a le cinéma à la maison. Et c'est vrai que la santé jusque-là était un peu épargnée. On sent que ça frémit un petit peu, alors la tarte à la crème, ça serait de parler du tensiomètre, mais force est de constater que le tensiomètre, c'était le truc du médecin, quoi. Et maintenant, on est capable de l'acheter. Alors, on en trouve à différents prix. On va dire que ça commence à 40-49 euros. Ça devient abordable. Si ça rassure certaines personnes, eh bien, pourquoi pas. Mais il y a des choses nouvelles qui vont débarquer dans cet univers moins gadget. Certains connaissent l'impédance métrique. Quand on achète une balance connectée, elle ne fait plus que mesurer le poids. Voire même, la plupart des médecins qui sont spécialisés dans le domaine nous disent suivre son poids, ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est de suivre la perte de masse grasse, la prise de muscle, etc. C'est la promesse faite par l'impédance métrique. Et certains le font bien, d'autres moins bien, mais en tout cas, des produits experts déjà utilisés dans le monde médical arrivent sur le marché grand public. Alors, je ne veux pas citer de marque pour citer de marque, mais on peut déjà au moins dire celle-ci. L'impédance mètre MyBeauty est issue du marché des professionnels et débarque dans le grand public. Des initiatives nouvelles arrivent, alors ne sont pas encore tout à fait sur le marché, mais une initiative comme Beta BioLED qui est finalement dont la promesse est de mettre à disposition un laboratoire d'analyse médicale chez soi. Waouh, c'est une promesse. Alors, pour ne pas faire trop peur trop vite, parce que en même temps, c'est une belle opportunité aussi d'apporter le soin chez ceux qui n'ont pas de laboratoire d'analyse médicale. C'est leur positionnement, travailler avec les ONG. C'est aussi également une occasion, peut-être, de faire ces analyses sur des lieux d'accident. On a besoin, des fois, de savoir si la personne a certains risques liés au sang. Donc, il y a voilà, de nouveaux produits très professionnels qui arrivent. C'est pour ça que la phase gadget, je me suis permis de la barrer, parce que c'est, finalement, elle est normale, cette phase-là, quoi. On découvre un peu à quoi peuvent servir toutes ces technologies. Est-ce que la santé connectée, c'est de la science-fiction ? Eh bien non, on n'en est là non plus. On n'en est évidemment plus là. Je citerai le PDG, voilà, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui disait « la technologie n'est plus un problème aujourd'hui ». Le souci, c'est le financement, jusqu'à quel point on est prêt à payer pour des développements technologiques et pour quelle utilité. Est-ce que la santé connectée, c'est l'affaire de quelques médecins branchés ? Ben non plus. Hein. Je ne sais pas si ça l'a été, je ne me positionnerai pas pour eux. Mais toujours est-il que l'Ordre des médecins, le Conseil national de l'Ordre des médecins, a sorti en ce début d'année un livre blanc sur la santé connectée avec un discours qui n'est pas orienté sur des freins, mais sur des opportunités, des adaptations du monde des professionnels de santé. Alors sur celui-là, j'étais un peu plus embêté pour mettre une croix. Mais je vais défendre le point de vue qui est le nôtre mutualiste. Est-ce que la santé connectée est un nouveau marché pour les géants du numérique ? Je suis plutôt embêté de dire non. En tout cas, je suis convaincu qu'il y a des acteurs qui sont légitimes pour faire autrement que de marchandiser la santé. Alors, quelle définition retenir sur la santé connectée ? Alors, c'est le seul petit moment de gloire que je me suis permis. Quand on tape « définition santé connectée » sur Google, coup de chance, ils retiennent la définition que l'on a mise en place à travers un site qui s'appelle le guide de la santé connectée. Je vais y revenir tout à l'heure, quel est son objectif, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette définition, et qui plus est, maintenant, peut être partagé, donc c'est la sensibilité mutualiste finalement qui peut être partagée, c'est que la santé connectée consiste en l'utilisation de nouvelles technologies pour améliorer la santé des citoyens. Ces technologies peuvent faciliter l'accès aux soins, on l'a vu tout à l'heure, permettre aux utilisateurs une prise en charge personnalisée en matière de prévention, de soins médicaux, de disease management ou autre. Effectivement, ce qui est important à retenir avec la santé connectée, ce n'est pas les nouvelles technologies, c'est ce qu'elles apportent, l'amélioration de la santé. Alors oui, voilà ce que c'est. On a vu tout à l'heure le jeune homme bardé de capteurs, le médecin un peu branché avec sa tablette, Google et puis Monsieur Science Fiction en haut. Ben voilà ce que nous, on veut retenir de la santé connectée. L'humain au cœur des préoccupations, de nos préoccupations et de nos préoccupations de recherche. Ce n'est pas que du discours, nos préoccupations de recherche. Et puis, on ne voit rien sur cette jeune fille. Alors, j'ai bien choisi la photo, vous allez me dire. Mais globalement, c'est ça l'idée qu'on s'en fait. La technologie doit être la plus transparente, la plus invisible possible si on veut qu'elle soit acceptée. Alors, le discours qu'on peut aussi entendre et auquel on peut souscrire quand même en grande partie, c'est que finalement, les nouvelles technologies, il faut les voir comme des médicaments. C'est un moyen, comme on le disait, d'améliorer la santé des gens pour accompagner leur santé. Il ne faut rien y voir de plus, sinon on tombe dans les dérives qu'on évoquait tout à l'heure. Si ce n'est que les médicaments, en caricaturant un peu le propos, s'attachent au curatif. Les nouvelles technologies, et vous l'avez dit tout à l'heure Laetitia, balayent l'ensemble du spectre de la santé au sens un peu OMS et puis prévention de tout niveau. Donc la santé connectée, c'est une vraie évolution pour notre rapport à la santé, c'est une vraie révolution. Et c'est tout l'objet des échanges que je voudrais avoir avec vous. La comparaison, juste sur ça, la comparaison avec le médicament n'est pas neutre. Le médicament, fin 19e, début 20e, a été, enfin, en tout cas l'apparition de la chimie dans la médecine a été une vraie révolution dans l'approche et en tout cas l'émergence de la médecine moderne. On peut pressentir, alors voilà, personne n'a évidemment de boule de cristal hein, à ce jour, mais en tout cas que l'arrivée de nouvelles technologies va être au moins autant révolutionnaire dans notre rapport à la santé qu'ont pu l'être les médicaments. Alors il n'est pas de moi, hein, je l'ai repris hein, cette image, mais je la trouvais plutôt sympa et adaptée. Finalement, en quoi la santé connectée modifie-t-elle nos rapports à la santé ? Eh bien, finalement, il ne suffit pas de regarder très loin, mais on est tous des adeptes de la santé connectée, ou alors de plus ou moins de près, mais nous cherchons tous des informations de santé, en tout cas beaucoup d'entre nous. Bon, j'ai dit que je ne donnais pas de chiffres, alors j'en resterai sur des approches de ce type. En tout cas, beaucoup d'entre nous cherchons des informations. Je ne dis pas que celles qu'on trouve sont bonnes, sont adaptées. Néanmoins, nos propres rapports à la santé changent par la disponibilité d'informations, bonnes ou mauvaises, sur la toile. Alors, comme il faut toujours citer trois marques, je crois, pour ne pas avoir de problème, je me suis noté Doctissimo, et généralement ça fait rire tout le monde parce que tout le monde a très peur de ce site. Top Santé, Santé Magazine, bref, il y en a des kilos. Et effectivement, un peu comme si vous achetez un appareil photo, une télé, alors si je dis lecteur DVD, ça fait un peu ancien, mon affaire. Bref, quand vous achetez de l'électronique, vous vous renseignez sur Internet, vous faites du comparatif, vous lisez des blogs, vous lisez des sites spécialisés, et vous allez voir le vendeur chez Darty, Boulanger, Fnac. Et globalement, vous avez le sentiment d'en savoir presque plus que lui, quoi. Et des fois même, vous dites, mais il me raconte n'importe quoi, il veut vraiment me vendre ce produit parce qu'il marche beaucoup en ce moment dessus. Il me dit que c'est formidable et finalement, moi j'ai lu que tout le monde c'était tout pourri quoi. Donc qu'est-ce qui me vend ? Mais finalement, la santé c'est un peu pareil quoi. C'est-à-dire que vous attendez pas la même chose du vendeur, vous attendez pas la même chose du professionnel de santé. Vous êtes éclairé, bien ou pas bien, mais vous êtes éclairé en amont. Du coup, vous n'avez pas les mêmes attentes à la Fnac, Boulanger ou Darty. Vous lui dites, moi je lui demande peut-être un retour d'expérience, un retour très technique parce qu'ils ont des labos pour certains d'entre eux. Sur la durée de vie, est-ce que je vais pas m'en lasser, est-ce que ça vaut le coup de mettre 500 € dans un tel produit, voilà, des aspects beaucoup plus pointus que c'est quoi le meilleur appareil photo de votre stand quoi. Ça on a déjà l'info, d'autres se sont prononcés, on a même des comparaisons de prix, donc vous allez pas me faire que vous êtes 100 € plus cher, voilà. Donc il y a déjà des changements de comportement qui sont liés à notre société de consommation et à Internet, et la santé n'est pas épargnée par ça. Donc quand on va voir le médecin aujourd'hui, presque on lui demande plus que ce qu'on a, on lui dit donnez-moi ça parce que j'ai ça. Et rien que ça, c'est déjà un impact sur notre rapport à la santé. Ce n'est pas évident de s'adapter, parce que les médecins sont évidemment, et heureusement qu'ils ont encore ce savoir-là, mais les sachants et les outils pour évaluer finement. Du coup, l'approche un peu psychologique de l'accompagnement du patient prend un autre tour aussi. Il faut déjà un peu désamorcer le truc. Non, vous êtes juste cogné, ce n'est pas un cancer. Donc on va y aller doucement, et puis on va juste prendre les paramètres vitaux qui vont bien, et on va vous accompagner. Voilà, par la pratique d'Internet, nous changeons déjà un peu la donne. Alors, nous nous auto-mesurons. Alors là, on l'a vu tout à l'heure. Je suis content d'être debout parce que ma montre Garmin, au bout de trois quarts d'heure, me dit qu'il est temps de bouger. Donc, du coup, ça participe à cet effet-là. En tout cas, je ne sais pas si c'est véritablement 20% de la population qui se mesure. Pardon pour le chiffre, désolé. En tout cas, il y a des moyens aujourd'hui pour s'auto-mesurer. Il y a des populations qui sont sensibles à ça. C'est une évolution, il faut en tenir compte. Et force est de constater, je l'évoquais tout à l'heure avec ce produit qui existe. Alors, les fils électriques n'existent pas, hein, évidemment. Mais en tout cas, ce produit existe. Il y a aussi des nouveaux moyens de mesurer des nouveaux indicateurs. J'évoquais l'impédance-métrie. C'était accessible à qui il y a encore peu de temps ? Aux marathoniens suivis peut-être de près par un médecin ou aux personnes malheureusement suivies pour des problèmes de surpoids ou d'obésité. Donc, on se fait nos propres diagnostics. Là aussi, ça change drôlement le rapport. Soit on n'écoute même plus son professionnel de santé, soit on va le voir avec toute une batterie de stats en lui disant « Effectivement, voilà, j'ai ça, ça, ça. Est-ce que vous pouvez me donner tel médicament ?» Parce que c'est que sur ordonnance, quoi. Ben, c'est un changement, là aussi, de rapport à la santé. Alors, c'est évidemment pas la majorité à ce jour d'entre nous, mais petit à petit, ça rentre dans le foyer, les habitudes. Nous sommes suivis à distance. Alors, je pense que c'est plutôt de manière expérimentale aujourd'hui. On a du mal en France à généraliser les choses, donc on fait beaucoup d'expérimentations. Néanmoins, il y a quand même une tendance à vouloir accompagner le phénomène voulu par le système de santé que de replacer finalement le patient chez lui le plus vite possible, hein, l'hospitalisation à domicile notamment. Et de nombreux services sont en train de voir le jour. Alors j'ai caché la marque ici, mais c'est c'est plus une start-up maintenant parce qu'ils doivent être rendus à plus de 100 salariés embauchés en peu de temps, qui propose à des hôpitaux un outil en ligne qui permet au patient de chez lui de faire les mesures de constante nécessaires à son hospitalisation. Donc dans un milieu non anxiogène chez lui, il ne va pas dans un milieu... Déjà, il n'a pas galéré pour se garer au milieu de l'hôpital. Il n'a pas couru pour être à l'heure à son rendez-vous. Et en plus, on ne lui avait pas dit qu'il y avait un quart d'heure d'attente avant avec l'accueil. Il n'est pas essoufflé, comme je peux l'être quand je prends la parole, etc. etc. Du coup, il peut faire ses pré-mesures, sa température, sa tension dans des milieux non anxiogènes, c'est-à-dire chez lui, les communiquer à un service qui prend le relais, pas forcément le médecin. Le médecin n'a que les alertes pour faciliter son entrée à l'hôpital le lendemain. Et pareil pour la sortie. L'idée, c'est aujourd'hui, il y a une espèce de paradoxe entre l'hospitalisation à domicile et l'hospitalisation en établissement. On est content de rentrer chez soi parce qu'on est plus proche des siens, de ses repères, etc. Mais finalement, à l'hôpital, on a la poire, quoi. Il y a le moindre problème. Puis généralement, on râle si la personne n'est pas là en 3 minutes, quoi. Mais on a la poire, quoi. Et la poire, ça appelle les médecins, quoi. Et ça, c'est ultra rassurant. Et quand on rentre chez soi, qu'on n'a pas la poire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le 15, on appelle son médecin, il ne répond pas. Voilà, ça entraîne d'autres formes d'anxiété. Ce type d'outils permettront de rassurer, de donner les clés, redonner un peu la main au patient sur la propre gestion de sa santé. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais pour la majorité des cas, si on peut résoudre ces problèmes-là, eh bien, ça sera déjà beaucoup. Alors, tout ça pour en arriver, par ces quelques exemples, finalement, se dire que nos rapports avec la santé changent, évoluent, et le système de santé devra forcément s'adapter à ses préoccupations face à des patients éclairés, on l'évoquait tout à l'heure le terme, et qui se sentent experts. Ils ne le sont pas forcément, mais en tout cas, ils ont les moyens de l'être. Et ce qui nécessitera forcément de modifier notre approche du système de santé très centré sur l'organe aujourd'hui, ou la maladie. J'ai mal au ventre, et bien on va d'abord passer par le spécialiste peut-être des intestins avant d'aller voir un autre spécialiste et puis de se rendre compte que finalement c'était une courbature. Enfin bref, en tout cas, aujourd'hui la médecine est très en silo, très organe par organe ou en tout cas par maladie. Et finalement, le fait de reprendre en main sa santé, ça peut avoir une vertu. C'est pas la maladie qu'il faut soigner, mais c'est bien le malade. Et qui, à travers différents outils, différents moyens, est à même de se mesurer sur certains aspects. Et c'est bien sur l'ensemble d'un spectre de la santé qu'il est important d'accompagner la personne plutôt que sur le volet des organes. Donc j'ai mis plein de thématiques ici. Il y a forcément des oublis, mais en tout cas, là, c'était pour illustrer le propos. La santé, c'est bien la santé de la personne à travers différents thèmes qui s'influencent les uns les autres. Et finalement, toute cette connaissance de la santé connectée nous apporte les outils de mesurer ces nouvelles constantes. Alors, la santé connectée est une opportunité. Bon, hop. Elle apporte des réponses à des mots de santé qui sont aujourd'hui peu peu adressé. Alors, je veux juste revenir sur le côté opportunité. Ce n'est pas de l'opportunisme. C'est bien l'opportunité, en tout cas ce qu'elle permet. C'est un peu la synthèse finalement de ce que je viens de dire. Elle permet de mesurer des phénomènes et des indicateurs nouveaux à moindre coût. C'est encore trop cher, mais le prix des composantes diminue et rend la santé connectée de plus en plus accessible. La question du financement est autre chose. Et là, j'attends les questions en tant qu'acteur mutualiste, évidemment. Mais la question du financement est autre chose. Également, le niveau de personnalisation. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit tout à l'heure, mais ces outils sont des outils personnels. Les indicateurs sont personnels. Les informations sont ultra précises. C'est l'idée, la promesse de certains produits. La question de la fiabilité, j'y reviendrai, parce qu'elle est vitale dans cette approche-là. Mais en tout cas, ça apporte forcément des réponses et des nouvelles considérations dans le cadre d'une personnalisation forte des réponses, j'ai noté, mais aussi des attentes. Point important, ces outils, j'évoquais tout à l'heure l'attention, on ne la mesure pas à un instant T chez le médecin, par exemple, pour illustrer mon propos, à un instant T chez le médecin dans des conditions un peu anxiogènes, mais on peut la mesurer vraiment efficacement, comme le disent les professionnels de santé. Eh ben, on le mesure 3 fois par jour au calme, 3 jours d'affilée, et puis on change de bras 3 fois pour avoir la mesure la plus fiable possible. Mais chez le médecin, on arrive, on pose 2-3 questions, on laisse sa veste. Est-ce qu'il a attendu le quart d'heure qu'il faut? Je ne sais pas. La tension est prise tout de suite. S'il a un doute, éventuellement, il la refait. Toujours est-il qu'elle est faite une fois, sur rendez-vous. Alors que la tension, si on veut s'assurer qu'elle est bonne, il faut la prendre dans le temps. Donc là, voilà une nouvelle opportunité de mesurer des paramètres que l'on connaît différemment. Espérons-le mieux. Également, la santé n'est pas petit à petit devient un enjeu de moins en moins chiant ou anxiogène. Il devient plus ludique aussi. Alors, je travaille dans une mutuelle, mais on a des obligations sur la prévention. C'est une obligation, évidemment. Mais la prévention collective, force est de constater qu'on ne touche pas tout le monde. Faire des réunions, des ateliers pour parler de nutrition, d'enjeux sur l'Alzheimer ou sur des tas d'autres choses, c'est un groupe limité de personnes. On ne touche pas de manière aussi massive les personnes que l'on aimerait. Et pourtant, les enjeux ne sont pas que sur les centaines de personnes que l'on voit, elles sont sur les millions de personnes que l'on a en portefeuille. Et puis, en France. J'évoquais tout à l'heure des solutions de plus en plus invisibles. Ça, ce qui est plutôt bien aussi, le caractère miniature. Alors, j'ai toujours en tête les systèmes de téléassistance. On met un gros bouton à des personnes âgées parce qu'on a peur qu'elles tombent. Généralement, elles n'ont pas choisi de l'avoir. Mais globalement, puis quand elles tombent, elles n'appuient pas dessus de toute façon. Mais globalement, c'est les enfants. Ça rassure les enfants qu'elle est. Mais quel produit ultra stigmatisant qu'un gros bouton rouge immonde autour du cou, quoi. On est fiché vieux, enfin c'est horrible. Miniaturisons, faisons disparaître ces outils pour ne pas stigmatiser. Alors, pour ne pas en rester à des concepts, quelques exemples de mots de santé qui sont aujourd'hui peu adressés. Faisons un tout petit constat. Alors là aussi, vous allez dire il est caricatural, mais en tout cas, regardons les choses un peu de haut. Notre système de santé est conçu globalement tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis l'après-guerre, dans une société très industrielle qui cassait physiquement les ouvriers. Donc on sait très bien soigner des maux physiques. Aujourd'hui, 75%, pardon pour le chiffre, des gens ont un emploi de bureau. Quelques maux physiques, évidemment, liés à la posture au travail, mais les maux sont surtout moraux. Et le stress, l'angoisse, burn-out, bore-out, c'est l'ennui au travail. Les problèmes de sommeil qui peuvent être liés, tout ceci ne sont pas pris en charge par le système de santé, sauf à rentrer dans des cas très pathologiques ou très avancés, malheureusement, de la maladie, pour être considéré comme malade. Pourtant, c'est à peu près un tiers des Européens souffrent du stress, ont un épisode de stress au moins une fois par an, et ont des troubles du sommeil. Voilà un enjeu sociétal de santé totalement oublié du système actuel, auquel, en tout cas, la technologie fait des promesses aujourd'hui pour apporter des réponses. Alors ça, c'est des mots nouveaux, mais on retourne un petit peu sur le physique, la sédentarité, j'évoquais ce cas-là par monsieur, là, qui a l'air bien déprimé. En tout cas, la sédentarité génère d'autres maux qui ne sont pas pris en charge par le système de santé. Alors vous allez me dire l'obésité est prise en charge quand elle est morbide, mais en tout cas, le surpoids n'est pas considéré comme une maladie. Pourtant, les conséquences sont assez désastreuses sur l'hypertension, parfois le diabète, etc. Et là aussi, des objets connectés, alors j'ai dû mettre quelques illustrations, peuvent apporter des réponses. On va revenir sur la question de la qualité de la réponse, hein. Mais en tout cas, c'est les promesses qui sont faites aujourd'hui, et ce qui explique aussi l'émergence de ces objets. Ben, j'ai enfin trouvé une solution pour mieux dormir. J'ai enfin trouvé une solution, bonne ou mauvaise, pour mes problématiques de stress. Et enfin, oups, voilà, j'ai trouvé une solution pour suivre mon activité physique. Alors, futilité, intérêt, qualité de ces outils, sur les quelques exemples que j'ai pris, surtout le dernier, tout du moins, ben à la limite, c'est pas grave, quoi. Que ça soit pas fiable, ce n'est pas grave en soi. L'importance, en mesurant, c'est les scientifiques doivent connaître ça, hein, surtout dans la physique quantique ou je ne sais quoi, tout ce que l'on mesure change. Et bien voilà, le fait de savoir peut être le début d'un changement de comportement. Et alors, je ne dis pas qu'on est au début de la chaîne du changement de comportement, mais pour les gens qui sont déjà conscients de quelque chose, mesurer, c'est déjà comprendre et chercher à évoluer. Et que ce bracelet-là mesure 3500 pas dans la journée, que celui-là en mesure 4500, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la mesure dans le temps, l'évolution. J'ai fait des efforts, j'ai bougé. Autre mot de société peu adressé, alors là c'est évident, mais j'aime bien cette photo parce qu'elle n'est pas caricaturale de nos aînés. C'est le vieillissement de la population. Et puis elle est bien cette photo parce qu'ils sont connectés, nos amis aînés. Mais le vieillissement de la société, évidemment, on en parle beaucoup, mais finalement, la silver economy, elle n'émerge pas. C'est un peu comme l'e-santé et le modèle économique. Tout le monde regarde les mutuelles pour savoir qui paye. Les mutuelles, vous avez raison. C'est un vrai souci aujourd'hui que de bien vieillir. Nos aînés ne veulent pas aller dans des foyers logements ou des EHPAD. Ils veulent bien vieillir à domicile. C'est évidemment un enjeu de société. Quand on a passé 50 ans ou 60 ans à payer sa maison, et que ses petits-enfants nous disent « Mamie, là, t'es 3 marches et demie, ça serait bien que tu y penses et que tu partes, qu'on te mette en foyer logement », ce n'est pas une réponse convenable. On ne peut pas prendre nos aînés pour des enfants. Du coup, la réponse, c'est redonner de l'autonomie, ou en tout cas, limiter la baisse de fragilité, l'entrée en dépendance de nos aînés. Et je parlais tout à l'heure du gros bouton stigmatisant d'un système de téléalarme. Ben voilà des réponses nouvelles qui arrivent sur le marché, ce qu'on appelle la téléassistance passive. Ce n'est pas la personne qui est née qui chute, qui appelle. C'est une détection à travers des capteurs qui est capable d'envoyer une alerte. Alors, toutes les questions techniques sont derrière. Est-ce que c'est une vraie chute? Les chutes molles, on ne les détecte pas, etc. Néanmoins, il y a d'autres outils pour cela. Et ce qui est important, c'est qu'on redonne de l'autonomie à la personne, on la rassure dans son domicile, et ça rassure idéalement les aidants. D'autres outils existent, ou en tout cas voient de plus en plus le jour. La santé, au sens Organisation mondiale de la santé, c'est pas que l'absence de mal-être physique, mais c'est bien la santé morale et également sociale. Et on sait que quand on est âgé, on peut habiter en ville et être seul, et ça impacte drôlement sa santé. On dit toujours, je ne veux pas déranger mes enfants, mes petits-enfants, ils sont bien occupés, je n'ose pas les appeler, et en même temps, ils viennent pas non plus. Et bien voilà, une bonne occasion aussi de proposer des outils adaptés qui permettent de garder du lien social avec ses proches. En fait, tous ces exemples mis bout à bout, c'est pour montrer qu'il y a des belles opportunités. C'est vraiment le fond du discours. Il y a des belles opportunités. On va arriver sur les dérives, hein, vous inquiétez pas, mais le fond du discours, il est là, quoi. C'est Raffarin qui plagiait malheureusement une chanteuse. C'est la positive attitude. Également toujours dans le bien vieillir au domicile, généralement, quand on aménage son domicile, j'évoquais tout à l'heure malheureusement parfois les enfants qui imposent à leurs parents de partir en établissement. Finalement, quand on décide parfois d'aménager son domicile, mais c'est souvent suite à une chute, à un problème en fait. On ne se rend pas compte des problèmes tant qu'ils ne sont pas venus, quoi. Donc c'est en ce sens que la prévention est extrêmement importante, et pourtant elle a du mal à décoller, mais pourtant elle est essentielle. Des nouvelles technologies qui permettent de rassurer l'aîné sur les adaptations de son logement. photo à gauche, ben voilà comment c'est chez toi, mamie. Tu as une baignoire, je pense qu'à ton âge, il faut que tu sois un petit peu plus vigilant. Regarde, si on faisait les aménagements, voilà ce que cela donnerait. Et la personne peut regarder en direct ce que cela pourrait donner chez elle. Ça rassure sur les investissements. Et ah, ok, vous n'avez pas trop, ça ne déformera pas trop mon logement. Voilà des exemples. Je ne cite volontairement pas les marques, mais pour dire que ce sont des choses qui existent et qui apportent des solutions utiles. On a beaucoup parlé des malades chroniques. Les malades chroniques, au-delà effectivement de se suivre par de la glycémie enregistrée sans erreur, l'un après l'autre, ces prises de glycémie, pour les malades chroniques, il y a un enjeu qui est fondamental aujourd'hui et qui, à ma connaissance, ne trouve pas de réponse généralisée. C'est, imaginons demain que nous inventons l'éducation thérapeutique du patient numérique. L'éducation thérapeutique du patient aujourd'hui, ça se passe en établissement hospitalier ou de santé, souvent en petits groupes ou individuels en fonction des objectifs. Et donc ça limite à peu près à 3% les patients qui peuvent accéder à ce type d'accompagnement et qui font gagner en bonne santé, en tout cas en meilleure santé. Imaginons des déploiements généralisés de ces programmes d'éducation thérapeutique du patient à tout le monde. Quand on est malade, on n'a pas envie de faire 50 ou 100 bornes pour aller à l'hôpital, pour aller suivre un cours. Ben voilà une belle occasion aussi d'apporter la santé directement chez les malades chroniques. Et puis également, puisque la technologie n'a pas de frontières, on le disait tout à l'heure, une belle occasion aussi d'accorder une importance aux personnes qui sont pluripathologiques aujourd'hui. Les programmes d'éducation thérapeutique des patients sont pathologie par pathologie. On peut être diabétique et obèse. On peut être diabétique et hypertendu. Eh bien, la problématique des spécialistes vole en éclats par ces apports. Alors voilà, pour ces tonalités optimistes, en tout cas, les visions telles qu'on les croit côté mutuel et les axes qui sont les nôtres aujourd'hui, les défis à relever. Alors, il y en a sûrement plein d'autres, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est les axes auxquels on cherche à apporter des réponses. C'est déjà pas mal. Rendre accessible la santé connectée au plus grand nombre. Ben oui, on le disait, c'est compliqué d'informer sur les enjeux. Et puis, les questions, c'est est-ce que c'est pour moi? C'est cher? À quoi ça sert? Etc. Démontrer l'utilité. Le terme gadget n'est pas neutre, je déteste l'utiliser parce que ça dessert le discours. Néanmoins, c'est peut-être l'image que l'on s'en fait aujourd'hui. Rassurer sur les questions de données personnelles. Aujourd'hui, on est très inquiet sur l'exploitation que l'on peut faire de ces données. Ok, je donne mes données à Withings, Garmin, Fitbit. Qu'est-ce qu'ils en font? Et s'ils les vendent à qui? Mais on oublie très souvent, dans ces conférences, dans les articles de journalistes, les opportunités liées si on partageait nos données. Soyons fous, on est aujourd'hui tous donneurs d'organes. Il faut juste dire non si on ne veut pas l'être. Si le don de données très encadré devenait une norme, comme le don du sang, le don d'organes, imaginons les possibilités qui seraient offertes pour la recherche et pour aider les gens à se soigner. Alors, fédérer les parties prenantes, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire la santé connectée, ça ne doit pas être une affaire d'industriel, alors surtout pas. Ça ne doit pas être une affaire que des mutualistes, des mutuelles ou des assureurs, surtout pas. Ce n'est pas l'affaire que des patients ou des professionnels de santé. Ce n'est pas une affaire que des associations, ce n'est pas une affaire que des start-up, c'est l'affaire de tout le monde. Et si on veut que ça émerge fortement, que les choses passent de l'expérimentation à la généralisation, c'est avoir un discours cohérent et ensemble, et pas de compétition sur ces enjeux de société et de santé. Voilà la question du financement durable, le modèle économique. Alors là, tout le monde tourne autour. Celui qui a trouvé le Graal, eh bien, il le garde bien à lui. Mais c'est vrai que la question va se poser, je vais y revenir. Alors, sur le rendre accessible et démontrer l'utilité, en faisant vite, pour pas que ça donne un discours très orienté promotionnel, mais en tout cas, ce sont les axes de recherche qui sont les nôtres aujourd'hui, à travers, en illustrant, trois services qui sont lancés parmi d'autres, rendre accessible et démontrer l'utilité. Il existe plein d'applications dites de coaching aujourd'hui sur les App Store. Mais finalement, elles sont toutes un peu en silo. Je vais t'aider à bien manger, je vais t'aider à faire du sport, je vais t'aider à faire ceci, à faire cela. Personne n'aborde la santé de manière systémique. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Better Eyes. et qui aborde la santé sur l'ensemble des composantes de la santé. Et ça, ce service-là, il n'est pas payant pour celui qui a de l'argent. Il est offert, il est en accès gratuit dans l'ensemble de nos contrats santé de nos 4,5 millions d'adhérents. Donc 4,5 millions d'adhérents, s'ils le souhaitent, peuvent ouvrir un compte gratuitement sur ce service qui propose des conseils personnalisés, des coachings, santé, bien-être, orienté, bien-être. Je vais y revenir un petit peu. Le guide de la santé connectée, ont beaucoup tourné tout à l'heure les questions de fiabilité. Eh bien, la question, effectivement, elle est vitale. Et du coup, on a lancé un site qui fait de l'évaluation d'objets connectés, bien-être et santé à travers le guide de la santé connectée. Et puis enfin, Harmony Live, qui est un nouveau. Là aussi, on rend accessible des systèmes de téléassistance un peu moins stigmatisants en redonnant la main aux utilisateurs. Pour faire très simple, j'ai qu'un seul slide. Betterize, c'est globalement le majordome. C'est ça la promesse qui est faite par ce produit. C'est le majordome de votre quotidien dans votre bien-être. Son objectif, c'est vous donner chaque jour des conseils différents sur les thèmes santé qui vous importent. Et finalement, en déclarant ou en analysant par des remontées d'objets connectés un certain nombre d'éléments mesurés, il peut adapter évidemment ses conseils sur d'autres thèmes que vous n'auriez pas choisis mais qui ont un impact sur votre quotidien. Vous dites, mes préoccupations, c'est le stress et l'alimentation, mais l'activité physique, je m'en fiche. Eh bien, peut-être qu'il va analyser mes niveaux de stress, mais la façon dont je me nourris, en me proposant peut-être de bouger un peu plus. Je ne l'avais pas prévu celle-là, mais c'est la solution. Donc voilà, 17 thématiques sur la mémoire, le stress, le sommeil, la nutrition, etc. Le bonheur. Alors ça, c'est rigolo, ça, pour info, les coachings sur le bonheur, c'est les coachings les plus utilisés sur l'application Betterize. Comme quoi. Et puis un hub de compatibilité avec des objets connectés. Donc une approche ultra ludique de sa santé. L'objectif n'est pas de parler à tout le monde avec ce produit-là. L'objectif, c'est de parler aux personnes qui en ont besoin. Et si parmi nos 4,5 millions de personnes, X% en ont besoin dans leur quotidien, on aura répondu à leurs préoccupations. Le guide de la santé connectée, alors ça c'est un site qu'on a lancé en interne l'année passée, qui fait de l'évaluation. Donc on informe sur ce que c'est que la santé connectée. C'est un peu les informations que j'essaie de donner là. Elles sont du même ordre sur le guide de la santé connectée, avec un peu plus de technique dessus. Mais en tout cas, on informe le grand public. Ce n'est pas un site dédié à nos adhérents, hein, tout le monde y a accès. C'est un site grand public dont la cible prioritaire est monsieur et madame tout le monde et d'apporter des informations de qualité à des médecins qui savent pour qui, des fois, ils sont sollicités par leurs patients sur les objets connectés et ne savent pas apporter de réponse. On essaye humblement de mettre en place un site pour donner des informations sur les objets connectés de santé. J'ai noté là tous les thèmes qui sont évalués sur le guide de la santé connectée. Donc vous allez retrouver une cinquantaine d'objets qui sont évalués aujourd'hui, pour lesquels vous allez retrouver 4 niveaux d'évaluation. Notre objectif, c'est de faire de l'évaluation objective. Harmonie Mutuelle n'a pas vocation à dire cet objet est bien ou pas bien. On fait de l'évaluation objective sur différents critères. Le consommateur fera des choix de consommation qu'il jugera utile à la lecture de ces critères d'évaluation. Les premières évaluations qui sont faites, c'est sur la fiabilité de ces objets. Un podomètre comme celui-là, est-ce que les informations qu'il remonte sont justes? Pour rappel, il mesure le nombre de pas que je fais chaque jour, la distance que je fais, le nombre de calories que j'ai brûlées. Et bien finalement, si on confie cet objet à un médecin, qui lui va nous faire un protocole d'évaluation de ce produit, va regarder des vrais produits, du vrai matériel médical, qui sait vraiment mesurer ça, et qu'on le confie à des patients, est-ce qu'il y a des différences? Alors, il y en a. Certaines sont négligeables, ce qui est plutôt rassurant, notamment sur les dispositifs médicaux. D'autres sont importantes. Il ne faut absolument pas suivre ses calories brûlées avec ce genre de produit. Il n'y en a aucun qui sait bien faire. Mais en tout cas, on a protocolisé les évaluations avec des médecins pour évaluer la qualité, la fiabilité de ces dispositifs. Donc sur les bracelets d'activité, par exemple, on fait courir des patients sur des tapis, on sait vraiment mesurer la foulée, etc. Et on les équipe de bracelets. Et on regarde les différences. Et on communique sur les résultats. Deuxième type d'évaluation, quand vous avez cette habitude, si vous connaissez un peu le marché des objets connectés, vous achetez un objet, bing, vous dites, ah, bah déjà, merde, le premier truc, c'est de télécharger une application. Je ne l'avais pas prévu, celle-là. Alors, pour certaines d'entre elles, ils vous donnent des conditions générales d'utilisation extrêmement longues qu'on ne comprend pas, d'autres les cachent. Que disent ces conditions générales d'utilisation? Vous avez acheté l'objet, vous êtes obligé de les accepter. Hein. Vous n'allez pas dire, non, je refuse, mon objet ne sera pas installé. Bon, bah, je le ramène. Que disent ces conditions générales d'utilisation? Est-ce que on vous a demandé Est-ce qu'on a recueilli votre consentement sur l'utilisation de vos données? Sont-elles exploitées après coup? Sont-elles anonymisées si elles sont transmises pour de la recherche ou à des partenaires commerciaux? Etc. etc. Donc on fait ce type d'évaluation sur le, en termes de droit en fait, hein, du consommateur. La troisième forme d'évaluation, alors ça généralement les fabricants ils n'aiment pas, mais c'est pas grave, c'est leur problème qu'ils n'aiment pas. On leur fait un questionnaire, 80 questions sur différents sujets. Un, quelle est la politique de sécurité que vous accordez à l'hébergement, la transmission des données des utilisateurs? Il y a des normes qui existent. Et nous, mutuels, alors on est souvent critiqués sur des choses, mais on a énormément de contraintes sur l'hébergement des données de nos clients. Eh bien, finalement, ces contraintes, on les applique aux fabricants en disant, bah ouais, finalement, vous avez un petit système d'information de données de santé autour du poignet, eh bien, la mutuelle, elle veut savoir si vous avez les mêmes exigences que nous, on nous oblige. Donc, toute une batterie de questions ultra-techniques, évidemment, là, qui me sera très compliqué d'expliquer, mais en tout cas, ça a été fait avec, avec notre responsable sécurité informatique, donc très, très blindé sur le sujet. Deuxième point, sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale du fabricant. Dans quelles conditions fabrique-t-il ces objets? Déjà, où? Où sont-ils conçus? A-t-il une charte sur le choix des sous-traitants à l'étranger, sur le respect au moins sur le respect international du droit du travail, etc. A-t-il intégré un côté recyclable dans ses produits? C'est systématiquement non, etc., etc. Donc des questions qui ne font évidemment pas plaisir. Alors ce sont des questionnaires qui sont envoyés, vous allez me dire, bah, ils s'y répondent oui partout, c'est super, ils ont des bonnes notes. Eh bien oui, mais ils ont des bonnes notes, certes. Alors déjà, on communique sur le taux de réponse au questionnaire, ça donne un indice de ce qui est leur niveau de confiance ou de transparence, et surtout on demande les justificatifs. Il n'y en a pas beaucoup qui les donnent. Mais en tout cas, ça donne une idée, un éclairage sur le niveau de transparence du fabricant. Voilà un peu les enjeux, et puis là, oui, le quatrième... on recueille les avis des utilisateurs de ces produits après usage, mais les impacts santé. Alors j'entendais tout à l'heure le côté dépendance. Et ben voilà, on pose la question quoi sur le site. Êtes-vous venu dépendant? Mais ça va plus loin que ça évidemment sur les impacts sur sa santé, ses changements de comportement, etc. Voilà, je vais aller un peu plus vite parce que j'en ai beaucoup parlé sur les systèmes de téléassistance nouvelle génération qui redonnent le pouvoir de l'autonomie à l'utilisateur. C'est pas tout à fait. J'apporterai pas plus d'infos. Rassurer sur les données personnelles. Alors là, c'est le dernier point. Assureur mutuel. Alors attention, le mutuel est devenu un mot comme frigo, Kleenex. Donc mutuel assureur, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que les obligations ne sont pas les mêmes. Une mutuelle, c'est une association. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et nos patrons, c'est nos adhérents. Donc s'il y a des choses qui ne leur vont pas, c'est eux qui dictent. Donc, on est à but non lucratif, ce qui est, tout à l'heure, vous évoquez une assurance, et non pas une mutuelle, qui lance sur le marché un pay-as-you-live, quasiment, quoi. Enfin, c'est que du bonus, en fait. C'est un produit qui récompensera les bons comportements mesurés par des objets connectés. Alors, si vous êtes chez eux, c'est topissime. Je vais vous donner un moyen de gagner de l'argent. Vous attachez votre bracelet, s'il mesure effectivement le nombre de pas et que vous êtes récompensé par ça, vous accrochez votre bracelet à votre roue de voiture. Vous allez faire baisser votre cotisation de manière drastique. Vous vous pesez avec des briques dans les bras, et puis petit à petit, vous diminuez les poids. Vous allez montrer que vous perdez du poids. C'est trucable à souhait. Et notre enjeu côté mutuel, c'est d'être transparent sur ces objets-là, ce que ça peut apporter, et c'est surtout l'usage que vous allez en faire. Si sanctionner l'utilisateur, c'est ça l'objectif des assureurs, ça ne sera pas le nôtre. En tout cas, ça va à l'encontre des valeurs et on donnera les clés pour tricher s'il le faut. En tout cas, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est la façon dont vous les utiliserez, vous. Vous êtes en surpoids, et ben on va vous donner les moyens de vous prendre en charge. Vous êtes stressé, on va vous donner les moyens. À vous de les utiliser, c'est l'usage que vous en ferez qui sera important. Alors, c'est bien gentil, il vient nous dire ça, Julien. Notre patron, entre guillemets, a dit, le président de la mutualité française, alors j'ai laissé complet quasiment son propos. La santé relève de nombreux déterminants génétiques, sociaux, environnementaux, etc., qui influencent le comportement de chacun. Qui n'a jamais eu l'occasion de choisir ses gènes, ses parents ou son milieu de naissance et l'éducation? Au nom de quoi la chance d'être en bonne santé devrait-elle être récompensée? Faudrait-il alors punir de leur malchance celles et ceux qui sont malades et doivent vivre une situation de handicap? Voilà la ligne directrice qui sera la nôtre. Nous engageons des chantiers sur l'utilisation ou la protection éthique des données personnelles au sein de notre mutuelle. Alors, fédérer les parties prenantes, je vais aller vite, mais globalement, là, je l'ai dit tout à l'heure, la santé connectée, c'est pas nous qui allons la faire. Hein. Alors, on s'entoure de parties prenantes que l'on juge adaptées à la situation. On est devenu actionnaire et partenaire de la Cité de l'objet connecté à Angers, parce qu'on ne sera jamais des industriels de la santé connectée. Jamais. Par contre, on veut s'associer au meilleur. On est partenaire d'Orange. On a intégré le Forum des Living Labs, donc qui est une structure qui est rattachée au ministère de l'Éducation, de l'Économie. Là aussi, parce que c'est eux qui nous envoient les informations, les directives, plutôt liées au ministère de la Santé et de l'Économie. J'aurais pu en mettre d'autres, mais en tout cas, on ne fera pas la santé connectée seule. Voilà, et financé. Ah ben voilà, vous allez dire c'est un complot. Hop là. Financement, eh bien, si on avait trouvé le modèle économique gagnant, eh ben, ça serait top. Alors du coup, comme on ne l'a pas trouvé, eh bien, on en teste plusieurs. Alors, c'était distillé dans mes propos. On fait de l'inclusion de certains produits dans nos offres de complémentaires santé pour que ça soit le plus accessible au plus grand nombre. Mais si on intègre tout dans les offres de nos complémentaires santé, la cotisation de nos adhérents, qui augmente forcément naturellement avec l'avancée en âge, bah elle aussi évolue plus vite. Donc on ne peut pas se permettre, mutuel, de financer systématiquement, de rembourser des applis, des objets connectés. C'est impossible. Et nous, contrairement à des assureurs ou des banques, on ne peut pas, entre guillemets, faire du dumping sur les prix, puis on se rattrape sur d'autres produits. On ne peut pas. On doit être raisonnable sur ça. Donc, ce n'est pas la voie que l'on pourra systématiser, mais on l'intègre quand on le juge utile. On lancera, quand on le jugera pertinent, et si le système de santé n'accompagne pas ça, des offres à tarifs accessibles pour accompagner la santé des gens. On fera du freemium, etc. Donc, on en teste plusieurs. On ne sait pas ce qui émergera, mais en tout cas, il faut lancer des choses pour voir ce qui marche. Aussi à grande échelle. Merci beaucoup.
Bien, donc la parole est ouverte. Si vous avez des questions, remarques. Non ?
Je n'ai pas parlé des ondes, vous pouvez y aller.
Voilà une seule question. Vous nous avez dit que vous aviez 4 350 000 adhérents, je crois, quelque chose comme
c'est
ça.
C'est très classe parce que vous avez le chiffre exact.
Pardon. Savez-vous combien sont connectés pour bénéficier de tous ces outils, etc. Quelle est la proportion aujourd'hui de... Voilà, tout simplement.
Alors, je n'aurais pas cette prétention de savoir qui est vraiment connecté à titre de santé. Je vais vous donner par contre un exemple sur Betterize. Qui est notre application qui est depuis le 1er janvier 2015 en inclusion systématique des 4 350 822 contrats. Aujourd'hui, on a 20 000 utilisateurs de cette application. Alors, le volet, alors, vous allez dire, c'est tout, parce que c'est vrai que si on fait un ratio, c'est pas grand-chose. Regardons ce que proposent les concurrents sur les mêmes types de choses. Alors, je ne les citerai pas, mais il existe 2-3 concurrents directs qui ont sorti des offres, évidemment, frontales. On était les premiers à le faire, il faut courir derrière. Ils sont à 2000. Donc, ce qui signifie qu'il y a un très gros travail, j'en ai parlé tout à l'heure, d'accessibilité, de démocratisation, de communication. On a un très gros boulot sur le faire savoir. Alors, évidemment, on sait qu'on ne touchera pas tout le monde avec cette appli-là. La personne qui a son petit jardin, qui va courir ou marcher régulièrement, qui mange convenablement, eh ben, cette appli, il s'en fichera, il aura raison, parce qu'il n'a pas besoin de ça pour vivre. Par contre, pour les personnes très sédentaires, les petits déclics qui sont proposés par cette application suffisent, et certains, alors le mot, je ne sais pas s'il est bon, sont devenus accros de l'application, la consultent tous les jours, tiennent compte des recommandations, adaptent leur mode de vie, et puis abandonnent. Après, d'autres continuent, etc. C'est ça, la santé connectée, c'est prendre conscience, et puis une fois que les habitudes sont prises, eh bien on abandonne, quoi. Voilà. Donc 20 000 utilisateurs de l'application, on en est vraiment très content, c'est l'objectif qu'on s'est fixé à 2016, donc comme quoi on ne cherche pas à équiper 50% d'utilisateurs. Néanmoins, on a fait après des études quali sur les retours de ces utilisateurs, les abandonnistes, les accros, les personnes qui l'utilisent par tel mode de vie, ce qui nous donne des informations aussi pour proposer des sujets complémentaires aux personnes qui ne sont pas intéressées par le produit.
Si je comprends bien, le fait de faire attention pour certains fabricants de produits
Très bonne question. Alors, sur le guide de la santé connectée que j'évoquais tout à l'heure, hop, je vais me remettre dessus parce que c'est le sujet. Alors, sur le guide, on a sélectionné 10 fabricants, à ce jour, il y a 10 fabricants qui sont évalués. Comment ont-ils été choisis ? On a regardé les principaux vendeurs d'objets connectés sur le marché. Fitbit, Weezing, Zayels, etc., etc. Bing. Eh bien, on prend cela et on les évalue. Le guide a été lancé. On a des sollicitations de fabricants qui disent « J'aimerais bien être évalué ». Eh bien, OK, pas de problème. Par contre, les conditions, c'est vous acceptez de passer sur le banc d'essai, entre guillemets. Vous acceptez de répondre aux questionnaires. Et vous acceptez qu'on décrypte les CGU. Certains, ça ne leur a pas fait plaisir. Mais en voyant Harmony, 4 millions et demi d'adhérents, ils se sont dit « Bon, ils vont peut-être commencer à peser un peu sur la partie recommandation. J'ai peut-être intérêt à le faire ». Eh ben vous pourrez regarder sur le site, je vous y invite. Pour un même fabricant, il y a des évaluations bonnes et des évaluations très mauvaises pour des objets différents. Donc, on n'a aucun parti pris avec eux. Alors, certains aimeraient, évidemment, on a joué le jeu du guide de la santé connectée, ça serait bien d'aller plus loin. Ou, telle information n'est pas bonne sur votre site. On vérifie, c'est-à-dire si on nous fait des remontées sur des questions juridiques que l'on a pu mettre. C'est pas Julien qui va les corriger parce que tel fabricant m'a dit bah, c'est pas bon. Non, j'envoie ça à notre expert juridique. Est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce qu'il faut adapter ? Donc on n'a aucun lien. Alors évidemment, j'aurais bien aimé être récompensé financièrement par les fabricants, mais non, évidemment que non. Absolument pas. Absolument pas. Non, non, non. Et ils aimeraient évidemment aller plus loin, mais c'est le jeu que l'on impose. Si on veut que le marché ait confiance sur les objets connectés, eh bien on donne toutes les informations et on fait des choix éclairés. L'objet n'est pas fiable, mais il est éthiquement responsable parce qu'il est fabriqué en France, etc., etc. Eh bien, certains consommateurs, ça leur plaira, quoi. Ça leur plaira. Mais non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, pour aller au bout, quand même, on fait le choix de vendre les objets. Alors, pas nous, Mutuel, on n'a pas le droit de vendre ça. On a un distributeur partenaire qui, lui, a fait le choix de ne vendre les produits qui sont les mieux évalués en fiabilité sur le guide. En gros, c'est un distributeur de matériel médical qui était très sollicité par les fabricants pour dire « Ah, ça serait bien que vous le mettiez en catalogue ». Il m'a dit « Bah non, je ne sais pas ce que ça vaut, vos affaires ». Du coup, leur choix de catalogue sur les objets connectés qu'ils distribuent, il est fait sur la base des évaluations que l'on fait. Voilà, nous, on ne touche rien sur la mise en relation, c'est leur job. Donc, le volet commercial du distributeur est l'affaire du commercial avec les fabricants. Ce n'est pas la nôtre. Nous, on fait les évaluations et on distingue bien les deux dans les rapports. Alors, vous avez totalement raison. On les a sollicités parce que quand on cherchait à faire les évaluations, donc le projet a été lancé en janvier 2015 chez nous et il est sorti en septembre 2015, donc avec les premiers objets évalués. On avait contacté l'association Que Choisir pour les protocoles d'évaluation. Ils ont refusé pour une raison toute simple. Ils ont raison de refuser, c'est qu'ils ne veulent pas être associés à une marque particulière pour... qui pourra démontrer qu'ils sont finalement de connivence avec une marque, un assureur, Mutuel, pardon. Voilà. Donc on les avait sollicités parce qu'ils faisaient du bon boulot. En tout cas, ils avaient une belle approche qui ressemble drôlement à ce que l'on a fait, mais on l'a fait autrement avec des médecins partenaires.
Donc moi, j'ai une petite question sur en fait, justement le potentiel d'information que du coup vous pourriez avoir presque accessible. Pas forcément pour forcément avoir une sentence sur les personnes qui utilisent des objets connectés, mais pour avoir en fait des études épidémiologiques comme on peut avoir en médecine sur des évolutions de comportement, sur une meilleure en fait photographie d'adhérents, etc., pour justement essayer d'ajuster éventuellement de viser une population qu'on sait peut-être un peu plus à risque que d'autres.
Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur le guide de la santé connectée, nous, on est un site d'évaluation, c'est-à-dire qu'on ne récupère évidemment aucune donnée. Les gens achètent un produit Fitbit, et bien, ils ont les données de Fitbit. Nous, on n'interfère nulle part, donc on n'a pas cette source de données pour faire quoi que ce soit. Sur Betterize, c'est pareil. Imaginez qu'un adhérent, si toutefois c'était fait, ce n'est pas le cas, mais si on récupérait les données de Betterize pour les intégrer dans nos propres systèmes d'information. C'est la mort de notre mutuelle, donc on a zéro accès aux données de Betterize, elles sont hébergées par Betterize, et nous on ne reçoit que des tableaux de bord statistiques, et aucune donnée même individuelle, même si elle était anonymisée, on ne les reçoit pas, donc on n'a pas cette capacité à ce jour. En revanche, la question de la démocratisation, la question des parties prenantes, de fédérer, de faire tester des choses, ça c'est des questions qui nous préoccupent aussi. Probablement que des projets verront le jour en 2017 de notre côté sur effectivement des statistiques d'usage, enfin des statistiques en tout cas, des projets qui permettent de fédérer des utilisateurs, des patients, des fabricants autour de nouveaux produits, de projets, pour avoir effectivement des statistiques d'usage. Mais à ce jour, on n'a pas les sources de données nécessaires pour ça. Quoi. C'est, on va dire, plus un projet aujourd'hui qu'une réalité.
Et j'avais aussi une autre question, c'était sur est-ce que du coup par rapport aux interfaces que vous avez proposées, vous avez possibilité de mettre en évidence des besoins, c'est-à-dire bah, des systèmes qui pour l'instant n'existent pas, mais quelque part que vos adhérents auraient souhaité avoir.
C'est une très bonne question. Alors, on a un formulaire de contact sur le site, c'est-à-dire qu'on reçoit quasiment, depuis qu'on est lancé, un à deux messages par jour, par semaine, de particuliers, de professionnels de santé, de fabricants, de journalistes, de ceci, de cela, qui sont à la recherche d'informations. Et certains, c'est arrivé effectivement, pour ne pas cacher trop le sujet, c'est un DRH d'entreprise qui était inquiet de la procédure lourde sur la pénibilité, l'enregistrement de la pénibilité au travail, qui se disait bon, si vous n'aviez pas un objet connecté qui ferait ça automatiquement, ça m'arrangerait bien. Bon, voilà. Voilà un exemple de sujet, effectivement, sur lequel il n'y a pas de bonne réponse à ce jour. Je ne dis pas que voilà, c'est représentatif d'un souhait, mais voilà, c'est arrivé. Voilà, ça peut arriver. Par contre, le site n'est pas orienté dans cette démarche-là à ce jour.
Vous pouvez nous en dire plus sur BetterEyes, qui est derrière cet organisme
Alors, BetterEyes, à l'origine, c'est une start-up. Alors, ils ont pas mal embauché, donc je vais vous mettre le curseur de la start-up maintenant. Mais en tout cas, c'est une jeune entreprise qui a dû être créée en 2012 ou 2013 par différents associés, dont les principaux sont inconnus. Mais un des associés est Michel Simès dedans. Mais c'est pas lui qui, en gros, il apporte son image. Hein. C'est très... Très, très basique, mais si ça peut permettre de diffuser, c'est pas plus mal. Donc c'est des associés qui ont déjà travaillé dans d'autres structures et d'autres start-up. Les programmes, les conseils qui sont fournis, c'est un collège de médecins, de professionnels de santé qui les font. Donc il y a un comité scientifique au sein de BetterEyes qui, donc à chaque fois que vous avez un conseil, vous allez retrouver un peu la patte hein, Michel Simès hein, dans les conseils avec de l'ironie, etc. Mais en tout cas, tous les conseils qui sont distillés, les quiz, tout est fait avec des professionnels de santé. C'est pas une personne derrière son ordi qui a décidé que de changer un programme, de changer une information. Non, ça doit passer à chaque fois par l'expert nutritionniste, par ceci, par cela. Donc ce sont des programmes scientifiques. Chez nous, on a une très grosse direction prévention, très à l'écoute de ce type de sujet, qui aimerait opérer des changements dans BetterEyes. Ben non, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment le comité scientifique qui définit les programmes. Donc c'est une entreprise totalement externe dans laquelle on n'a aucune part, aucune participation. C'est un partenaire parmi d'autres que l'on peut avoir. Et donc, il y a des actionnaires plutôt individuels. Ils sont en levée de fonds en ce moment. Donc, ils vont. C'est peut-être que leur actionnariat changera. Voilà.
En dehors d'Harmonie Mutuelle, est-ce que vous avez une idée de l'intérêt porté à la santé connectée dans d'autres mutuelles ou d'autres assurances ?
Eh bien, alors ça n'a pas gage d'être représentatif, mais AXA, Generali, Malakoff, Groupama, bref, on y est tous, quoi. On y est tous avec une sensibilité différente. Alors, tout à l'heure était évoquée la sortie d'un produit du Pay-as-you-live, donc récompensant les bonnes pratiques à la rentrée, en janvier 2017, par un assureur qui s'appelle Generali, donc avec un produit qui est issu du marché plutôt sud-africain, donc avec une libéralisation de la santé un peu plus poussée que la nôtre. AXA a été l'un des tout premiers à faire quelque chose de très orienté marketing, hein, cela dit, mais à mettre en place un objet connecté dans son assurance en proposant un truc un peu accélérateur de vente. Ça a été un flop, ils se sont fait assassiner par les journalistes. Enfin, voilà. En gros, tout le monde s'y intéresse. Personne ne sait. Enfin, on y va à pas feutrer parce que la question des données de santé revient toujours, mais toujours. Il y a plus de crainte à l'exploitation non éthique des données que l'exploitation éthique des données. Donc tout le monde y va d'une manière très, très précautionneuse. Dans les mutuelles, ce que l'on peut voir, je peux citer Pasteur Mutualité, qui est une mutuelle dédiée aux professionnels de santé, qui a intégré une ligne de prestation de remboursement d'objets connectés bien-être et dispositifs médicaux. Donc il y a cette approche-là, je rembourse certains produits. Nous-mêmes, on le fait pour des personnes qui en ont besoin dans le cas d'un diagnostic pressenti d'une maladie. Donc on rembourse des tensiomètres ou des glucomètres, alors connectés ou non d'ailleurs, mais voilà, on y va un petit peu. Malakoff, Médéric, pour parler d'eux, ils ont intégré un concurrent de Betterize dans leur appli. Lacorte, Massif, Maïf et tout ça, en travaillant avec IMA, IMATEC, développent aussi, ont beaucoup de sujets là-dedans. Donc voilà, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'approches sur la Silver Echo, en fait, pas mal sur la partie Silver Echo, donc téléassistance, accompagnement des personnes âgées. On avance à pas feutrer, comme je le disais tout à l'heure, on peut pas tout faire payer à nos adhérents. Du coup, il y a une question de modèle économique à trouver, et comme personne ne l'a véritablement, eh bien, on se cherche encore.
Est-ce que ça a répondu à votre...
Oui, oui.
Moi, j'aurais juste une question qui concerne l'évaluation.
Oui.
Parce que, évaluer un objet connecté, bon, si c'est un cardiofréquencemètre ou le poids, etc., je pense que là, c'est des procédures relativement simples en termes de protocole. Mais valider un objet connecté tel que, par exemple, ne serait-ce que évaluer une activité ou les calories dépensées, etc., je veux dire, il y a des protocoles scientifiques qui sont assez lourds. Quel regard avez-vous sur ces protocoles d'évaluation? Et dans quel cadre et comment ils sont scientifiquement validés?
Ok. Alors, tout premier élément de réponse, tous les protocoles d'évaluation sont en ligne. Donc, sur le guide de la santé connectée, on impose entre guillemets un souci de transparence aux fabricants. Commençons par nous-mêmes. Donc, tous les protocoles d'éval sont dessus. Alors, je ne suis pas un spécialiste des éléments techniques, mais ce que j'ai retenu, c'est que tous les indicateurs qui sont mesurés, alors déjà, tous les indicateurs que l'on n'a pas mesurés, on le dit aussi. Donc, on n'invente pas des chiffres, quoi. Tous les indicateurs qui sont mesurés, ils sont tout systématiquement comparés à des étalons or. Donc celui de la mesure de la calorie, je m'en excuse, je ne m'en souviens absolument pas, mais je l'ai relu encore il y a deux jours, il est sur le site, donc il est noté. Oui, tout à fait. Le tapis roulant, le fameux tapis roulant, on décrit comment on le fait. Alors, on ne met pas tous les noms, les codes de ces étalons or, mais on les a à la demande. Donc si besoin, je les ai même dans mon téléphone, si besoin je vous les envoie, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tous les protocoles sont dessus et ce sont des médecins qui les font. Donc nous, on travaille avec un médecin qui est dans un CHU à Toulouse, qui est médecin spécialiste de la cardiologie, la réadaptation cardiaque, qui est notre porte d'entrée. Donc tout ce qui parle d'activité physique, et pas celui qui s'en charge, sur les questions qui ne sont pas de son domaine, eh bien, il confie à des médecins qui sont des confrères. Voilà. J'évoquais tout à l'heure avec Laetitia la mesure du sommeil. Ils proposent tous la mesure du sommeil. Mais aujourd'hui, on n'a pas de protocole qui sait bien le faire. Donc, on ne le fait pas. On marque sur le site que c'est en cours, parce que c'est vraiment en cours. Alors, on cherche des partenaires qui soient capables de faire les choses efficacement. C'est-à-dire, dans l'idéal, des patients qui viennent se faire suivre dans des établissements pour des problématiques de sommeil qui vont être branchés pour des questions de suivi, eh bien, si on a l'autorisation de ces patients, des médecins, etc., etc., de les équiper de bracelets ou d'autres produits pour comparer, eh bien, c'est ce qu'on essaierait de faire. Voilà. Donc, systématiquement, c'est protocolisé avec un médecin référent.
Merci. Bien, donc, merci, Julien, pour cette présentation très illustrée. Donc, eh bien, on va passer à l'orateur suivant, donc, Simon Jolivet, donc, objet connecté et environnement. Une autre problématique, oui, toujours.
Thank you. Bonjour et bonjour à tous et merci d'abord aux organisateurs de m'avoir convié pour faire cette intervention qui sera peut-être un peu en décalage avec les interventions précédentes. Donc je vais préciser peut-être un petit peu le point de vue d'où je parle pour que vous puissiez comprendre. Je suis spécialisé en droit de l'environnement et pas sur le domaine des objets connectés. Donc, si vous voulez, il y a trois éléments dans mon intervention, les objets connectés, l'environnement et le droit, et les réflexions que je vais vous proposer se situent quelque part au croisement entre ces trois éléments. Le point de départ de la réflexion, c'est de se demander ce que, précisément, l'émergence et la diffusion massive des objets connectés peut avoir comme impact sur l'environnement et sur le droit qui a vocation à le protéger. On a beaucoup parlé aujourd'hui et dans les jours précédents sans doute de notions telles que vie connectée, santé connectée à l'instant, usine connectée. Alors sachez que l'une de mes collègues de l'Université de Limoges, une juriste de l'environnement qui s'appelle Séverine Nadeau, a proposé par analogie à ces différentes notions la notion de nature connectée pour rendre compte de cette réalité qui est que de plus en plus l'environnement est truffé de capteurs de plus en plus performants, de plus en plus communicants pour mesurer tout un ensemble de données, connaître l'environnement, éventuellement aider à le protéger. Séverine Nadeau, je la mentionne à dessein parce que c'est une des premières à ma connaissance à s'interroger justement sur les rapports entre objets connectés, environnement et droit, ce qui est relativement logique dans la mesure où la diffusion des objets connectés est très récente et que le droit est toujours un petit peu à courir derrière les innovations, y compris les innovations technologiques. Néanmoins, quand j'ai commencé à travailler sur la question, je me suis rendu compte que le terrain de la réflexion, au moins d'un point de vue théorique, n'était pas tout à fait vierge pour envisager ces rapports entre objets connectés, environnement et droit de l'environnement. Et je pense qu'on peut les resituer dans un débat qui est tout à fait ancien, qui est quasiment concomitant à l'émergence de la pensée sur l'écologie politique. C'est le débat sur les rapports entre progrès technique et protection de l'environnement. Et comme beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent à cette question, j'ai été influencé par les réflexions d'un historien du droit et théologien protestant qui s'appelle Jacques Ellul, 1912-1994, qui a enseigné à la fac de droit de Bordeaux, dont les réflexions me semblent assez incontournables toujours sur la question. Alors, Jacques Ellul, il avait une thèse fondamentale, c'était la thèse de l'ambivalence du progrès technique. Je le cite, hein, Jacques Ellul, pour vous expliquer ce qu'il entendait par ambivalence du progrès technique. Le développement de la technique n'est ni bon, ni mauvais, ni neutre, mais il est fait d'un mélange complexe d'éléments positifs et négatifs, bons et mauvais, si on veut adapter un vocabulaire moral. Ça, c'est la position de principe. Évidemment, il l'étaye assez longuement dans plusieurs écrits, et il l'étaye en particulier par quatre propositions que je vous livre ici. Première proposition, tout progrès technique se paye. Deuxième proposition, le progrès technique soulève des problèmes plus difficiles que ceux qu'il résout. Troisième proposition, qui à mon avis est particulièrement pertinente pour notre propos d'aujourd'hui, les effets néfastes sont inséparables des effets positifs. Et enfin, quatrième proposition, tout progrès technique comporte un grand nombre d'effets imprévisibles. On n'est évidemment pas obligé de partager les conclusions de Jacques Ellul, mais en tout cas, si on se place, comme je le fais, dans le cadre d'une pensée sur le système technicien, pour appréhender les rapports entre objets connectés et environnement, la liaison entre objets connectés et environnement, on va avoir une grille de lecture qui va s'imposer assez naturellement. C'est la grille de lecture de l'analyse bénéfice-risque. Au fond, la question, c'est est-ce que les objets connectés sont bénéfiques à l'environnement ? Est-ce qu'ils sont au contraire néfastes ? Ou encore, si on adopte le point de vue de la neutralité technique, est-ce que tout dépendra de la façon dont on les utilise ? Je ne prétendrai évidemment pas répondre à cette question, simplement peut-être poser quelques jalons. Dans tous les cas, la réponse doit être nuancée. Mais ce que je vais essayer de montrer ici, c'est qu'à mon avis, les objets connectés illustrent le paradoxe que Jacques Ellul a contribué à mettre en lumière, à savoir que les risques qu'ils véhiculent pour l'environnement, ce sera le deuxième temps l'intervention, pourraient bien être inséparables des bénéfices qu'ils apportent. C'est le premier temps de l'intervention, en quoi les objets connectés peuvent avoir des bénéfices pour l'environnement et pourquoi le droit de l'environnement va essayer de se saisir de ces bénéfices. La première chose qui moi m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur cette question, encore une fois j'étais tout à fait novice en la matière, c'est la diversité des bénéfices qui sont attendus de la part des objets connectés. J'avais, et peut-être que vous aussi, dans l'idée que les objets connectés allaient être utilisés pour améliorer la gestion des ressources naturelles. Et effectivement, c'est le cas. Mais ce qui m'a surpris et qui m'a particulièrement intéressé, parce que mes recherches portent plus précisément sur le droit de la protection de la nature, protection des espaces naturels et des espèces sauvages, c'est que dans ce domaine-là aussi, les objets connectés sont de plus en plus mobilisés pour aider à la mise en œuvre de textes de protection. Donc deux éléments dans cette première partie sur les bénéfices pour l'environnement des objets connectés. D'abord, l'amélioration de la gestion des ressources, et puis ensuite, plutôt l'aspect protection de la nature. Ici, vous avez deviné, je pense, pour l'amélioration de la gestion des ressources, ce à quoi on pense tout de suite, ce sont les réseaux énergétiques intelligents ou autres smart grids, qui, selon leur promoteur, auraient un bénéfice au moins double pour la protection de l'environnement. Il permettrait une gestion plus économe de la ressource et il permettrait également de favoriser le développement des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont munis de compteurs communicants qui permettent une communication bidirectionnelle entre le fournisseur et le consommateur. Le consommateur va être informé de sa consommation, ce qui va lui permettre par exemple, de déclencher les appareils en heure creuse ou au contraire, de couper à des moments précis. Ça, c'est pour l'aspect économie de la ressource et pour l'aspect favorisation des énergies renouvelables. Donc, dans les deux cas, diminution d'émissions de gaz à effet de serre et donc contribution à la lutte contre les changements climatiques. Pour la question du développement des énergies renouvelables, un des obstacles majeurs, techniques, je parle, parce qu'ensuite on peut parler des subventions publiques pour les énergies fossiles ou pour le nucléaire, mais du point de vue technique, un des obstacles majeurs au développement des énergies renouvelables, c'est la question du stockage, parce que ce sont des énergies intermittentes. Et là, ce qu'on espère, c'est qu'avec les compteurs intelligents, on va permettre de faire coïncider la consommation de l'énergie renouvelable avec le moment où elle est disponible, que ce soit l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Étant donné les arguments donc des promoteurs des réseaux énergétiques intelligents, très rapidement, enfin à l'échelle des mutations juridiques, le droit de l'environnement a commencé à se saisir de ces réseaux intelligents et à essayer de promouvoir leur diffusion, voire leur généralisation. Pour prendre l'exemple de l'électricité et du gaz, mais l'eau présente des similitudes. La fameuse loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui transpose elle-même une directive européenne, donc là c'est le droit européen comme souvent qui est en amont, cette loi prévoit le remplacement des compteurs ordinaires par des compteurs intelligents. Compteur intelligent d'électricité, c'est le compteur Linky, d'Enedis et XRDF, et compteur de gaz, c'est le compteur Gaspard, de GRDF. Donc, des bénéfices pour l'amélioration de la gestion des ressources, sont escomptés et, je dirais, prioritairement. Toutefois, ce n'est pas le seul domaine. Encore une fois, les objets connectés sont aussi utilisés pour prévenir et pour réprimer les atteintes à l'environnement, y compris l'environnement naturel. Ils sont utilisés, les objets connectés, à deux étapes de la... disons, de la confection de la norme juridique, à la fois en amont, c'est-à-dire qu'ils sont un outil de connaissance scientifique. L'environnement a un fonctionnement complexe. On attend des objets connectés qui permettent de mieux comprendre ce fonctionnement, le fonctionnement des écosystèmes. Et puis en aval, c'est-à-dire qu'une fois que la norme elle a été édictée, les objets connectés sont utilisés pour aider au contrôle du respect de la réglementation. Je vais prendre des illustrations concrètes dans un instant, qui vont être plutôt dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, parce qu'encore une fois, c'est le domaine que je connais le mieux. Mais sachez qu'il existe également des exemples analogues dans la plupart des secteurs de l'environnement, la lutte contre les pollutions, notamment pollution de l'air, pollution de l'eau, avec la multiplication des capteurs. Alors, deux exemples. Un exemple d'abord en amont, c'est-à-dire pour l'amélioration de la connaissance, et puis ensuite un exemple en aval pour le contrôle du respect de la réglementation. Les objets connectés sont, par exemple, de plus en plus utilisés pour améliorer la connaissance du comportement des animaux, et en particulier des animaux migrateurs, pour mieux connaître leur déplacement. Techniquement, il s'agit d'équiper les animaux de colliers émetteurs qui sont reliés à un smartphone et ainsi de suivre les déplacements à distance et en temps réel. Quel est le lien avec le droit, avec la protection ? Parce que les données qui vont être récoltées grâce aux objets connectés, ils vont permettre d'adapter à la fois le statut juridique de l'espèce, qui sera plus ou moins strictement protégé en fonction des menaces qui pèsent effectivement sur son état de conservation, qu'on connaîtra mieux, et également adapter le statut la protection des espaces qu'elle fréquente, parce qu'on saura mieux que telle espèce migratrice, elle stationne dans telle aire de repos avant de reprendre sa migration, et on saura mieux délimiter l'espace qu'il faut protéger. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ces objets connectés qui se diffusent très récemment, ils vont pouvoir aider à mettre en œuvre des textes qui parfois ont été adoptés dans des époques où, bien que le droit de l'environnement soit une matière récente, il était totalement inconcevable de penser le développement des objets connectés. Je reprends l'exemple des animaux migrateurs. Le texte de référence au niveau international, c'est la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices. Elle date de 1979. Évidemment, rien sur les objets connectés dans la Convention de Bonn, mais les instances de la Convention de Bonn se saisissent des objets connectés pour améliorer la protection des espèces. Deuxième exemple, mais cette fois-ci en aval, au moment du contrôle du respect de la norme et de la répression, les objets connectés se développent de plus en plus dans ce qu'on appelle la lutte contre la criminalité phonique, étant précisé que la criminalité phonique s'impose comme, je crois, la quatrième plus grosse criminalité au monde après le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et le trafic d'armes. Là aussi, il y a une convention qui vise à empêcher la criminalité phonique. Elle est encore plus ancienne, c'est la CITES, la convention sur le commerce des espèces menacées d'extinction. Elle date de 1973. Un exemple très concret que j'ai appris en lisant le Huffington Post, c'est que dans un parc national du Rwanda, les gardiens du parc utilisent un drone qu'ils font survoler le parc national et plus précisément l'endroit où stationne une espèce qui s'appelle la grue couronnée grise, qui est l'espèce emblématique en voie de disparition, dont la capture est interdite par la loi, mais qui est fortement convoitée à des fins d'ornementation dans les parcs et les jardins. Donc des bénéfices extrêmement divers sont escomptés pour la protection de l'environnement. À ces bénéfices correspondent cependant des risques, et je vais essayer dans cette deuxième partie de me demander si ces risques sont inséparables des bénéfices qui sont escomptés. deux étapes dans le raisonnement ici pour se demander si les risques sont inséparables. D'abord, l'identification de ces risques, et ensuite, une fois qu'ils seront identifiés, comment se poser la question de comment le droit pourrait ou le fait ou appréhende déjà les risques afin de les réduire. L'identification des risques associés aux objets connectés, d'abord, le principal risque, très clairement, c'est celui lié à l'empreinte écologique des objets connectés. Empreinte écologique qui se décline tout au long du cycle de vie des objets connectés, c'est-à-dire de la conception à l'illumination en passant par la phase d'utilisation. Trois étapes. La conception des objets connectés. Là, le coût environnemental, il est en particulier le fait du recours aux terres rares, qui sont des minéraux indispensables à la fabrication de nombreux composants électroniques intégrés dans les smartphones ou encore dans les GPS. Les impacts de l'exploitation des terres rares sur l'environnement et la santé humaine sont localisés, mais significatifs. Et ils sont localisés sur un secteur bien déterminé de la planète, c'est en Chine, essentiellement, parce que c'est là que se fait la production de terres rares. Et alors, pour les populations concernées, c'est-à-dire celles qui vivent à proximité des mines, le coût environnemental et social, il est exorbitant du développement des objets connectés, fut-il au bénéfice de l'humanité tout entière. Ensuite, deuxième étape, au moment de l'usage des objets connectés. Là, ce n'est pas l'objet connecté en lui-même qui va être fortement consommateur d'énergie, mais c'est plutôt les centres de traitement des données, les data centers, qui permettent de stocker les informations collectées dans les objets connectés. J'ai lu que, selon la Commission européenne, 104 milliards de kilowatts seront nécessaires dans l'Union européenne d'ici 2020 pour faire fonctionner les centres de traitement des données. Et selon Greenpeace, alors évidemment c'est une source engagée, il faut la prendre avec précaution, mais selon Greenpeace, 2% de l'énergie mondiale est consommée pour faire fonctionner les centres de traitement des données. Enfin, troisième étape, et peut-être surtout, c'est le moment de l'élimination des objets connectés. L'augmentation de la production des objets connectés, d'autant plus qu'elle est associée couramment à l'obsolescence programmée de ces objets, c'est-à-dire soit qu'ils sont conçus pour avoir une durée de vie brève, soit ils sont conçus pour être obsolètes rapidement, c'est-à-dire être dépassés par nouvelles avancées technologiques. L'augmentation de la production des objets connectés donc entraîne presque mécaniquement celle des déchets. Là aussi, les chiffres sont éloquents. Entre 2012 et 2017, c'est-à-dire demain matin, le volume des déchets électroniques devrait augmenter de 33% au niveau mondial pour atteindre 65,4 millions de tonnes. L'empreinte écologique, c'est vraiment le risque majeur et peut-être le plus inséparable, j'y reviendrai, de la production des objets connectés. Néanmoins, il y a d'autres risques pour la protection de l'environnement qui sont souvent un peu oubliés parce qu'ils sont peut-être plus maîtrisable sur le long terme et peut-être moins inséparable du développement des bénéfices escomptés. J'en prends un, ce qui me tient à cœur, c'est celui de la question du détournement des données environnementales. On parle très souvent, et je sais que vous en avez parlé aujourd'hui aussi, même si malheureusement j'étais pas là ce matin quand il en a été question, on parle souvent de la sécurisation des données pour la protection de la vie privée, et y compris pour les objets connectés qui doivent améliorer la gestion des ressources naturelles. Le fait que, grâce au compteur Linky, on sache à quel moment vous consommez l'électricité et pourquoi, ça peut être intrusif pour votre vie privée. Mais ce dont on parle moins, c'est de la sécurisation des données environnementales. Par exemple, la fuite possible d'informations sur la localisation d'espèces protégées qui pourraient tomber aux mains de personnes mal intentionnées. Je vous rappellerai à cet égard une affaire, pour montrer que ce n'est pas un cas d'école, qui a été assez médiatisée l'an passé. C'est l'affaire de la mort du lion Cécile. Peut-être que vous en avez entendu parler. Dans un parc du Zimbabwe, lion emblématique qui a été tué par un dentiste américain qui faisait du safari grâce à des contacts locaux. Bien, je ne sais pas si vous avez, parce qu'évidemment, on en a beaucoup parlé d'un seul coup, puis c'est retombé, hein, mais je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête un petit peu, mais une des pistes pour expliquer comment les complices locaux avaient eu l'information sur les déplacements du lion, c'est que le lion faisait l'objet d'un programme de géolocalisation de la part des gardiens du parc. Et que soit les chasseurs, les braconniers ont eux-mêmes utilisé leur propre géolocalisation, soit ils ont détourné les informations dont disposaient les gardiens du parc. Face à ces risques, c'est le dernier temps de l'intervention, face à ces risques, est-ce que le droit de l'environnement est préparé à affronter la diffusion des objets connectés? C'est la question de l'appréhension des risques des objets connectés. Même si actuellement il n'existe pas encore beaucoup de mécanismes spécifiques sur cette question-là, je pense, et je vais peut-être être optimiste pour la première fois de mon intervention, que le droit de l'environnement est relativement bien armé pour faire face au développement des objets connectés, à la fois d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue plus opérationnel. D'un point de vue conceptuel d'abord, le droit de l'environnement, c'est une matière jeune qui a pour caractéristique d'être articulée autour de principes directeurs. Principes directeurs qui vont orienter le contenu de la norme technique et ainsi conférer une grande adaptabilité au droit de l'environnement face aux nouveaux risques émergents. Ces principes directeurs, vous les connaissez au moins de nom. Parfois, ils sont mal compris dans leur signification, mais de nom, ils sont connus. C'est les principes de prévention, de précaution, de pollueur-payeur, d'information du public, de participation du public, d'intégration de l'environnement dans les différents secteurs et, depuis la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité, de non-régression du droit de l'environnement. Ici, le principe qui sera le plus mobilisé, à mon sens, c'est le principe de prévention. Principe de prévention qui a une valeur constitutionnelle depuis qu'il a été inséré dans la Charte de l'environnement en 2005 à l'initiative du président Chirac. Le principe de prévention, il vise, au nom de l'irréversibilité écologique, c'est-à-dire l'idée qu'une fois que le dommage est causé, que l'espèce a disparu, on ne peut pas réparer, au nom de l'irréversibilité écologique, il vise à éviter a priori la survenance de dommages plutôt que d'avoir à réparer les conséquences a posteriori. Il s'applique aux risques certains, le principe de prévention, contrairement au principe de précaution, avec lequel il est parfois confondu, principe qui est très très mal compris, le principe de précaution, qui étend la prévention à un univers d'incertitude scientifique. Pourquoi je dis qu'à mon avis, c'est le principe de prévention qui sera mobilisé ici surtout? Bien parce que, comme je vous l'ai indiqué, l'empreinte écologique des objets connectés, elle ne fait pas de doute, on en est certain. Alors le principe de prévention, de précaution sera quand même sans doute mobilisé pour quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, qui est la question des ondes électromagnétiques, dont l'impact, lui, fait encore débat sur la santé humaine et, j'ajouterai ici, sur la santé animale également. Ça, c'était pour le niveau conceptuel, hein, mais vous allez voir que le niveau sectoriel et opérationnel n'est pas sans lien avec ce niveau conceptuel. Au niveau opérationnel, le secteur du droit de l'environnement qui va être le plus mobilisé, étant donné ce que je vous ai dit précédemment, c'est le secteur du droit des déchets. Et là, ici, par chance, il existe un certain nombre de textes qui encadrent la production de déchets et surtout la façon de les éliminer. Au niveau européen, on a précisément une directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui date de 2003, donc avant la diffusion des objets connectés, et qui a été refondue en 2012. Étant donné que c'est une directive européenne, elle a dû être transposée en droit français, elle s'impose au droit français à travers un décret. Cette directive, je vous dis, elle porte sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc elle n'est pas spécifique aux objets connectés. Toutefois, elle a un champ d'application qui est si large que finalement elle permet d'inclure sans difficulté les déchets issus d'objets connectés dans son champ d'application, et peut-être, mais je ne suis pas encore une fois spécialiste vraiment de la question, qu'elle rend superflue l'adoption d'un texte spécifiquement consacré à la gestion des déchets issus d'objets connectés. Ce qui est intéressant, c'est que cette directive, elle se fonde précisément sur le principe de prévention qui va orienter le contenu des dispositions techniques. Quels sont les objectifs de cette directive? Premier objectif, limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements. Deuxième objectif, favoriser le recyclage et la réutilisation par rapport à l'élimination. Troisième objectif, organiser des systèmes de collecte et les mettre à la charge des producteurs des équipements. Et quatrième objectif, obliger les distributeurs à reprendre gratuitement les équipements usagés aux consommateurs lors de la vente d'un nouvel appareil. C'est ce qu'on appelle l'obligation de reprise un pour un. Vous avez peut-être expérimenté quand vous allez chez votre distributeur de smartphone, par exemple, que vous ramenez votre, que vous voulez acheter un nouveau smartphone, le distributeur doit vous reprendre l'ancien gratuitement. Il y a donc des efforts réels qui ont été impulsés par la politique européenne de l'environnement. La question terminale, c'est de savoir si ces efforts, que je ne nie pas, vont suffire à contrebalancer l'augmentation prévisible de la production des déchets issus d'objets connectés. Et à cet égard, je voudrais vous lire une tribune qui est parue la semaine dernière dans le journal Le Monde, intitulée « Quand recycler pollue ?» et écrite par Vianney Vaught, qui est cofondateur de Back Market, une plateforme dévolue aux produits reconditionnés. Je vous cite juste un extrait. En 2014, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, comptabilisait 633 millions de nouveaux appareils électriques et électroniques commercialisés en France, soit 6 fois plus qu'il y a 20 ans. Tandis qu'étaient ainsi mises en circulation 1,55 millions de tonnes d'équipements neufs, les éco-organismes collectaient 526 855 tonnes de déchets d'équipements électroniques et électriques. Ce sont donc les deux tiers du volume mis sur le marché qui sont dans l'incapacité d'être absorbés. Donc le recyclage progresse, mais pas dans les mêmes proportions que la production de déchets issus d'objets connectés. Pour conclure, deux remarques. La première, qui est directement liée à ce que je viens de dire, c'est qu'à mon avis, la thèse de Jacques Ellul concernant l'ambivalence du progrès technique, elle trouve avec les objets connectés un nouveau terrain d'expression. Les objets connectés doivent aider à la gestion plus économe des ressources naturelles, mais en même temps, ils créent de nouveaux problèmes en étant eux-mêmes fortement consommateurs d'énergie et générateurs de déchets difficiles à traiter. Si on reprend l'exemple des compteurs communicants, les économies d'énergie qu'ils vont permettre de réaliser risquent d'être annihilées par les besoins liés à la production d'une masse toujours plus importante d'objets connectés. Et enfin, deuxième et dernière remarque conclusive, qui est d'ordre plus philosophique que véritablement technique, je voudrais revenir sur la notion que j'ai avec laquelle j'ai ouvert mon propos, la notion de nature connectée qui a été évoquée, qui a été conçue en quelque sorte par ma collègue Séverine Nadeau. Séverine Nadeau dit, je la cite, alors que l'homme s'est au fil du temps déconnecté de la nature, il chercherait par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication à rétablir ses liens perdus en s'y reconnectant technologiquement. Fermez les guillemets. Alors, je suis plus perplexe que Séverine Nadeau sur ce point, parce que je m'interroge sur la qualité de la reconnexion entre l'homme et la nature que sont censés opérer les objets connectés, parce que la médiation qu'ils fournissent, elle est nécessairement virtuelle. Ayant été profondément marqué par la lecture Des Racines du ciel, le roman de précurseur de Romain Gary qui exalte la beauté sauvage de la nature, je milite également pour une reconnexion à la nature qui soit à la fois plus directe et plus sensible. Je vous remercie.
Bien, donc différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, très, très sympathique. Des questions, des remarques, des réflexions? Ça vous a assommé.
Oui.
Donc, oui, merci pour cette présentation. Juste une question justement sur éventuellement des difficultés d'harmonisation au niveau international, puisque là, visiblement, vous avez évoqué quelque part des choses au niveau européen, mais du niveau du droit où on parle de COP22, donc voilà, on sait que quand on cherche à harmoniser certaines choses, en particulier au niveau du droit, au niveau international, on a des difficultés. Donc est-ce que vous avez des sujets en ce sens par rapport à cette thématique-là?
Oui, alors là, c'est une question redoutable, hein, parce que autant au niveau européen, avec les directives et les règlements, on arrive à harmoniser le droit, autant au niveau international, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, en plus, au niveau international, les questions sont sectorisées, sont éclatées au niveau environnemental. Par exemple, pour la COP 21, la COP 22, c'est le climat, et on ne traite que du climat. Pour la question des déchets, ben c'est pareil, on a des forums spécifiques qui sont déconnectés, c'est le cas de le dire, de la question climatique et d'autres questions. En l'occurrence, il y a des conventions qui datent des années 80 pour gérer plus particulièrement le transfert de déchets des pays du Nord vers les pays du Sud. On a la convention de Bâle et la convention de Bamako sur ces questions-là, parce que, vous souvenez-vous de l'affaire du Probo-Koala en Côte d'Ivoire, avec le durcissement de la réglementation, y compris, enfin, surtout la réglementation européenne, certaines entreprises peu scrupuleuses ont eu tendance à vouloir aller délocaliser la gestion, la faire dans des pays beaucoup moins regardants. Donc là, tout l'effort du droit, et du droit international en particulier, ça a été d'essayer d'imposer une obligation de consentement du pays importateur vis-à-vis du pays, enfin, que le pays importateur consente en toute connaissance de cause à recevoir ses déchets, et en contrepartie une obligation de la part de l'exportateur sous le contrôle des instances internationales ou supranationales dans le cadre européen, à vérifier que le pays en question avait bien les capacités techniques et financières nécessaires pour s'occuper de la gestion de ces déchets. Donc c'est loin d'être parfait, mais les textes existent. Ce qui va manquer maintenant, c'est plutôt la question de l'application, de l'effectivité, des contrôles, parce que ça demande des moyens humains importants, ça demande une coordination entre États, à une époque où on a l'impression que la coopération est plutôt en train de se rétracter. Donc voilà, ça pose des questions redoutables. Cela étant, j'ai lu des réflexions d'auteurs africains sur le développement des objets connectés, très inquiets sur le fait que le développement massif des objets connectés, à terme, veut dire une exportation de déchets électroniques beaucoup plus importante qu'actuellement sur le continent africain.
Oui, bonjour. Ma question se rapproche un peu de madame. Mais moi, ce serait plus au niveau des animaux. Parce que vous avez parlé de matériel connecté et d'animaux. Moi, j'aurais bien voulu savoir sur le problème d'immigration. Parce qu'en Europe, vous êtes bien calé au niveau de la législation. Mais au-delà des frontières, je pense par exemple aux oiseaux migrateurs qui quittent l'Europe pour aller vers l'Afrique, par exemple. Quel moyen qui est mis en place justement pour continuer cette protection, notamment technologique qu'environnementale, pour justement aider ces animaux? Parce que si on les aide justement qu'en Europe, arriver en Afrique, c'est...
Pardon,
c'est
j'ai pas entendu.
Si on les protège et on les aide en Europe, en Afrique, c'est autre chose.
Alors, je vous remercie d'autant plus de votre question que c'est l'objet de ma thèse, en fait. Ma thèse était sur les rapports entre la protection de la nature et les frontières. Donc c'était exactement ça. Alors, il existe là aussi des textes. Ce n'est pas le problème de l'abondance des textes, en fait. C'est plutôt le problème de leur application. la question des animaux migrateurs oblige à penser justement en dehors des frontières traditionnelles du droit, frontières nationales, mais aussi frontières régionales. Et vous avez tout à fait raison, autant le droit européen est extrêmement développé sur la question, autant dans d'autres continents, et le continent africain n'est pas le plus mal loti en termes de textes, en tout cas, ce serait plutôt le continent asiatique, mais en termes d'application, c'est plus difficile parce qu'il manque de moyens. On est obligé de penser aussi sur toute l'ère de migration et les oiseaux, elles, qu'elles soient en Europe ou en Afrique, et qu'elles soient en Europe ou en Afrique, c'est, voilà, c'est égal. Et alors justement, le droit européen la politique européenne a eu tendance à vouloir un peu exporter son droit. Et dans les années 90, sous l'égide de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est une convention mondiale, les pays européens et les pays africains se sont mis d'accord pour conclure une convention fille de la convention mère sur la convention de Bonn, pour toutes les espèces d'oiseaux migrateurs qui migrent de l'Europe vers l'Afrique. Donc il existe un cadre juridique de coopération entre l'Europe et l'Afrique, des instances de négociation où des représentants des pays européens, des pays africains se rencontrent pour parler de ces questions. Donc ça existe. Ensuite, c'est toujours la question effectivement de la mise en œuvre et de l'application qui va être différenciée entre ce qui se passe sur le continent européen et sur le continent africain. Mais il y a aussi des programmes d'aide de la part des pays européens vis-à-vis des homologues africains que permettent ce type de forum de négociation. J'espère que j'ai répondu.
Bien, une autre intervention, question ? Non ? Oui ? Profitez-en. Hein.
Oui, juste, pourriez-vous revenir sur votre exposé en matière de l'empreinte écologique ? En fait, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez comparé les bénéfices et les non-bénéfices, j'ai oublié le terme, hein, les aspects positifs des objets connectés et les aspects négatifs. Et cette empreinte écologique, elle m'a paru bien chargée en termes de négatifs. Pour vous, est-ce que la balance est positive quand même ? Voilà une question. Vous pouvez revenir.
Pour l'instant, moi, j'ai le sentiment que non, elle est pas du tout positive, qu'elle est tout à fait négative. Il faudrait des gains en termes d'économie d'énergie de la part des objets destinés à cette fonction-là, extrêmement importants pour contrebalancer le développement de tous les objets connectés qui sont, je ne sais pas si c'est en majorité ou pas, je n'ai pas de données là-dessus, mais pour un certain nombre des gadgets, pour qu'on arrive à une balance qui, à la fin, soit positive. Alors, j'ai lu qu'effectivement, il y avait énormément d'efforts pour améliorer, y compris pour les centres de traitement des données, faire en sorte qu'ils soient alimentés par des énergies renouvelables, etc. Donc peut-être qu'à terme, ce sera le cas. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas. Et je ne vois pas que ça puisse l'être assez rapidement. Mais je n'ai peut-être pas non plus toutes les données en main.
Je me permets juste un commentaire ou une interrogation. Dans votre réponse, vous voyez le gain uniquement du côté énergie, puisque vous évoquez la question des smart grids et derrière des compteurs Linky, etc. Donc moi, je le perçois comme ça. Or, quand on voit la diversité des exposés de la journée, y compris ceux juste avant autour de la santé, on comprend a priori que des bénéfices peuvent être obtenus dans des secteurs très variés. Je ne dis pas pour autant qu'ils compenseront les aspects négatifs, mais en tous les cas, je pense que là encore une fois, vous évoquez finalement une vision systémique qui me semble tout à fait indispensable. Je pense qu'il faut aussi réussir à l'avoir au niveau des bénéfices. Et je pense que compte tenu de la difficulté, avant de se faire une idée complète, objective, ça me semble extrêmement difficile et je pense que ça fera des beaux sujets de thèse.
Ouais. Alors j'aurais dû préciser, vous avez tout à fait raison, là, comment dire, c'est ma faute, j'aurais dû préciser que dans mon exposé, je ne m'intéresserai qu'aux bénéfices pour l'environnement et aux risques pour l'environnement des objets connectés. Pas. Et donc, ce qui veut dire que on peut aussi très bien faire un choix sociétal, par exemple, d'assumer l'empreinte écologique des objets connectés qui sont bénéfiques pour la santé, par exemple. Parce que c'est un choix à mettre en balance. Le problème que je vois, moi, c'est que le développement des objets connectés, il va se faire un peu quoi qu'il arrive et dans tous les domaines. Et c'est un peu ça qui... c'est qu'il y en aura qui sont très bénéfiques et puis d'autres qui ne le sont pas. Et puis, alors, qui va dire ? Parce que ça, c'est le bénéfice. Voilà. Mais j'aurais dû préciser, effectivement, ce biais un peu méthodologique. Ouais.
En tout cas, je vous remercie. Mais quelque part, justement, pour pouvoir agir là-dessus, justement, sur cette empreinte laissée par les objets connectés, quelque part, j'allais dire que ce qui nous manque, nous, en tant qu'utilisateurs potentiels, c'est justement cette prise de conscience-là. Mmh. En disant, quelque part, cette... démocratisation, ce gros marché, est lié justement à notre économie de marché qui faut vendre. Mais on n'a pas forcément conscience en tant qu'utilisateur des problématiques qui sont liées en termes environnementaux à la diffusion, développement de ces objets connectés. Et en partie, nous faire prendre conscience du coup, éventuellement, d'arrêter d'utiliser sous forme de gadget. Mais plutôt, comme vous le disiez un petit peu, de se focaliser sur ceux qui ont une réelle utilité.
Benoît. J'ai d'activité là, mais j'ai pas de bracelet.
Alors, est-ce que justement, avant de mettre un appareil sur le marché, la preuve de l'utilité de l'objet ne devrait pas être démontrée ? Là, on a réussi à faire interdire la production, même peut-être même le fait de vendre des ampoules qui ne risquaient absolument rien. Et maintenant, c'est interdit de les produire. Je ne sais pas si on peut encore les produire dans quelques pays. Les pouvoirs publics ont réussi ce tour de force. Est-ce que pour les objets connectés, il ne pourrait pas y avoir quelque chose à faire dans ce sens-là et prouver en amont l'utilité et le bénéfice de l'utilisation de l'objet ?
À ma connaissance, avant les autorisations sur le marché, il y a des études d'impact qui sont faites, mais on ne raisonne pas en termes d'utilité, on raisonne en termes de nocivité ou d'absence de nocivité pour l'environnement et la santé humaine. Ça, c'est en matière de médicaments, en matière de pesticides, etc. etc. Proposer de passer à une logique d'utilité, ça impliquerait de changer un petit peu de modèle économique, et c'est pas dénué non plus de tout risque politique, parce que va décider l'utilité de la chose et sur quels critères. Vous voyez, il y a un risque aussi d'atteinte aux libertés, hein, et notamment aux libertés économiques. Donc voilà, c'est.
Peut-être juste un petit éclairage. Effectivement, l'utilité, elle est dépendante de l'usage que l'on en fait. Effectivement, un objet connecté, comme je porte autour du bras, si je suis en forme, que je cours tout le temps, il ne sert absolument à rien. Et pour d'autres, il va simplement être le premier déclic à vouloir changer. Donc effectivement, les critères sur l'utilité, ils sont compliqués à mettre en œuvre. Néanmoins, il y a deux axes en cours aussi qui sont peut-être des optimisations. Le droit français est assez particulier, notamment sur certains dispositifs médicaux. Un tensiomètre connecté, on peut très bien le faire certifier CE, ça demandera deux ans ou un an et demi pour qu'il soit reconnu par la Sécu, etc., etc. Les fabricants arrivent à les mettre sur le marché sans certification CE propice à une reconnaissance, d'un remboursement, etc. Donc il y a aussi des trous dans la raquette, on va dire, sur le volet spécifiquement de la santé. Alors pour essayer de contrebalancer ces trous dans la raquette, la HAS vient d'éditer pour la partie santé un référentiel des bonnes pratiques liées à la fabrication des objets connectés. Alors évidemment, il n'est qu'un référentiel Et il n'est pas sûr qu'un fabricant américain aille le lire. Néanmoins, s'il était au moins à destination des fabricants français ou des start-up françaises qui, par leur côté responsable, pourraient être intéressés par ce type d'outils et de bonnes pratiques d'évaluation et de critères extrêmement plus poussés que la simple bonne idée du moment pour pouvoir mettre sur le marché un objet. Donc voilà, un trou dans la raquette d'un côté, et puis il y a quand même des initiatives, voilà, des préoccupations qui commencent à voir le jour.
Pas sûr que ce référentiel prenne en compte l'impact de l'objet connecté sur l'environnement. Ça m'étonnerait. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Même, c'est peut-être ma remarque s'adresse plus au niveau de la santé, mais je suis un peu surpris quelque part du désengagement des services publics par rapport à ces aspects-là, parce que en fait, ce sont des partenaires privés qui s'invitent à la table et qui font leur politique, je veux dire, bien ou mal, je porte pas de jugement, et alors que l'État n'apparaît pas, quoi. Et je pense que, mis à part, effectivement, il y a des directives européennes sur l'environnement, parce que les gens sont peut-être plus sensibles sur ces aspects-là, je
Ils
sais pas.
Ils sont plus loin des pressions aussi.
Oui, plus loin des pressions, peut-être. Alors que, bon, là, les lobbying de la santé, on les connaît bien, donc le médiateur, etc., on a quelques expériences. Et là, je suis un peu surpris de cette absence de l'État, dans le secteur de la santé, entre autres. Voilà. Bien, Non, ça y est, on a épuisé les énergies. Non, ça va. Bien, ben, écoutez, merci pour votre assistance, vos questions. Merci aux orateurs, aux intervenants. Et merci à Anne pour cette organisation.